Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Brésil à Interlagos. Dernier Grand Prix, bouquet final, j'ai envie de dire, tout ce qu'on aime dans la F1, eh ben, on l'a eu. Et même plein de choses qu'on n'aime pas dans la F1, eh ben, on l'a quand même eu. C'est ça qui était génial ce dimanche, n'est-ce pas Dino?
Ouais, c'était génial.
Je croyais que tu m'étais bien Vettel.
Oui, non mais tu sais, c'est comme en 2010. Non mais voilà, c'est comme en 2010. Voilà, en 2010, c'était Vettel contre Alonso, j'étais partagé, je savourais pas vraiment. Là, c'est encore Vettel et Alonso, mais je suis un peu plus déçu parce que je voulais vraiment qu'Alonso soit champion. Et voilà, je suis très content pour Vettel. Voilà, c'est un titre mérité et compagnie, mais j'aurais préféré que ce soit Alonso. Donc je suis un peu triste.
Et Dino, nous ne sommes pas seuls pour la 20e fois.
Non, parce que lui, par contre, je crois que lui, maintenant, ça y est, il déteste les Allemands. Et ben, c'est bon, c'est fini. 39-45, il a résisté. 14-18, il a résisté. Mais 2012, c'est terminé. C'est Gaëtan. Bonsoir, Gaëtan.
Bonsoir.
Donc, tu détestes les Allemands, Gaëtan.
Ouais, ah oui, ah, oh, putain, c'est vrai.
Ah, nous, on balance tout, hein. Nous, tout ce qu'on voit, on balance.
Le petit détail dans mon profil Skype, en effet.
Ça n'a donc rien à voir avec Sébastien Vettel.
Quand même.
C'est rassurant.
Alors messieurs, comme d'habitude, je posais la question habituelle. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix?
Rebondissant, c'est stupéfiant.
J'ai failli mourir trois fois à cause d'une crise cardiaque.
Pluie.
Mortel. Ah moi, c'est le chouette debout tout le Grand Prix.
Et messieurs, donc hier, nous étions le 25 novembre. Et que s'est-il donc bien passé un 25 novembre?
Oh, plein de choses, Cindy.
Oui, c'est vrai. Rien qu'en F1, il s'est passé plein de choses. En tout cas, hier. Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et le chiffre de la semaine, c'est un chiffre un petit peu particulier, enfin, dans sa formule, parce que, oh là, c'est la dernière de la saison, hein. Et donc le chiffre, cette semaine, c'est 25 sur 3.
D'accord, ok.
25 sur 3.
Oui.
Donc c'est 25 tiers.
Non, c'est pas une fraction.
C'est une dimension.
C'est une dimension.
Des mètres?
Non.
Des centimètres?
Oui.
Donc c'est quelque chose qui fait 25 centimètres sur 3 centimètres.
Ça peut être de taille différente, mais en général, ça se présente sous cette taille-là.
25 centimètres sur 3 centimètres.
Est-ce que c'est un outil?
Ça peut être utilisé comme outil. Mais c'est pas son but premier. C'est... Non mais c'est peut-être pas l'outil, donc... Tu ne peux pas découper quelque chose avec et tu ne peux pas. Voilà.
C'est la plus grande télécommande au monde.
Peut-être, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que ça a à peu près été une télécommande.
Ah, c'est ça. Ouais.
C'est un objet manufacturé.
C'est un objet manufacturé.
Qui sert au quotidien.
Non. Enfin, disons que c'est pas le truc que vous allez trouver chez vous, en tout cas j'espère pas. Mais c'est pas non plus un objet unique.
D'accord.
On l'utilise beaucoup en France.
On a dû beaucoup s'en servir. Mais pas plus en France que dans un autre pays.
C'est un objet contendant? Au sens où je pourrais tuer le colonel Moutarde avec dans la chambre.
Je pense que vu la consistance du truc, il faudrait que tu tapes beaucoup de fois sur le colonel Moutarde.
Ah, c'est mou?
Je pense. Relativement mou. Pas mou, mais
Un truc mou.
De 25 sur 3.
De 25 sur 3, ouais. C'est... Mais 3, c'est du diamètre ou c'est de la largeur?
Diamètre.
Du diamètre. Non, chers auditeurs, je ne dirais pas un godemiché. Okay. Je sais que vous pensez à un godemiché depuis 10 minutes, mais je ne dirais pas un godemiché.
En plus, un godemiché, j'aurais dit oui, c'est courant, on peut en trouver dans des maisons.
Oui, mais pas, non, mais parce que t'as dit pas vous, donc voilà.
Non, mais de façon générale, voilà, c'est pas un truc qu'on trouve dans des maisons.
T'imagines, quand t'es une moutarde, un coup de godemiché, toi, putain.
Ah, écoute, il sort bientôt. C'est Noël, hein, nouvelle version du Cluedo, hein.
C'est un objet, c'est pas quelque chose qu'on peut consommer.
Oui, c'est un objet. Et en effet, vaut mieux pas le consommer. Enfin, consommer dans le sens manger, hein, j'entends.
C'est à partir de produits toxiques?
Plutôt, oui.
C'est en plastique?
Au sens strict, non, y a pas de plastique.
Oh, un caoutchouc?
Non.
C'est bien de rien, depuis tout à l'heure, on tourne autour du godemiché. C'est pas un godemiché, mais ça y ressemble.
Mais dis-toi, j'ai fait un petit croquis, moi, sur une feuille à côté de moi. Bah.
C'est une matraque?
Non, non.
Donc tu nous as dit que c'était un outil. Un outil de cuisine?
Non.
Aucun rapport avec la F1, bien sûr.
Non, ça n'a pas de rapport avec la F1.
Un outil de mécanique?
Non.
Un outil de jardinage?
Non, 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 pas du jardinage avec ça, non.
Est-ce que c'est un outil qu'utilisent des sportifs?
Je ne pense pas, non plus.
Va faire ce sport, alors.
Donc c'est bien c'est un objet qui a été inventé le 25
Exactement, le brevet a été déposé le 25 novembre.
Du 20e siècle?
Non.
21e?
Non.
19e?
19e.
En France?
Non.
En Europe?
Oui.
Donc c'est Grande-Bretagne?
Attends que je vérifie pour être sûr que ce soit le bon pays. Non.
Allemagne?
Non.
Italie?
Non.
Espagne?
Non.
Belgique?
Pays-Bas?
Non, non.
Suède?
En Suède.
En Suède.
En Suède. Ah, c'est le tournevis IKEA. Il date du 19e siècle, c'est pour ça qu'on en chie pour monter leurs meubles.
Eh non, il y a autre chose qui vient de Suède.
Les Suédoises?
Aussi, Björn Borg, aussi, les Chris Prolls, mais c'est pas ça.
C'est un objet qui est de forme cylindrique.
Oui.
Est-ce que cet objet, il est de forme cylindrique à l'extérieur, mais on peut l'ouvrir?
Oui, techniquement, on peut l'ouvrir.
C'est un truc qui est très connu de la Suède.
Je sais pas si c'est très connu de la Suède, mais c'est un objet qui est connu quand même.
Ça a été utilisé dans toute l'Europe.
Dans le monde entier.
Ah, dans le monde entier.
Mais aujourd'hui, on l'utilise plus.
Ça n'est plus commercialisé en effet aujourd'hui.
Ah, je sais. Est-ce que ça a été inventé paradoxalement par quelqu'un à qui on a donné le nom d'un trophée mondial?
C'est plus qu'on lui a donné, c'est qu'il l'a créé indirectement.
Il l'a créé. C'est la dynamite, la TNT.
Exactement, c'est la dynamite.
Ouais, le dernier, hein, moi.
On ne fait pas de jardinage avec la dynamite. Le 25 novembre 1867, Alfred Nobel, c'est lui, le Suédois, hein, a déposé le brevet de la dynamite. Hein, le nom de dynamite vient du grec dynamis, qui signifie puissance ou pouvoir, auquel a été ajouté le suffixe suédois it, qui lui veut juste dire it. Et donc en effet, tu l'as souligné, c'est-à-dire que la dynamite, à l'origine, ça a été fait pour sauver des vies. Puisque auparavant, on se servait de la nitroglycérine, qui était fabriquée notamment par la société d'Alfred Nobel, donc qui se présente sous une forme liquide, mais qui, si vous avez déjà vu des films à la télé, vous le savez, la nitro, c'est super instable.
À qui a vu MacGyver, c'est que c'est super instable.
Tellement instable, d'ailleurs, qu'elle a été interdite en Europe, hein, et qu'il y a eu de nombreux accidents, et notamment, Alfred Nobel, en fait, il a perdu son frère, qui s'appelait Émile, lors d'une explosion pendant une préparation de nitroglycérine, en 1864. C'est pour ça que, justement, il a cherché quelque chose qui pourrait être utilisé comme explosif, mais de façon plus sûre. Et donc, Alfred Nobel, il résout le problème tel un MacGyver. Donc, en mélangeant donc de la nitro, parce qu'il y a de la nitro dans la dynamite, avec des kieselgurs. Donc, sous ce nom barbare se cachent en fait des micro-algues sous forme de poudre que vous imbibez de nitro, hein, puis que vous moulez, hein, comme une pâte à pain, sous forme de bâtonnets enveloppés de papier. C'est ainsi qu'on crée donc de la dynamite, qui est le premier explosif à la fois puissant, peu coûteux et stable. Pour savoir, il y a 75% de nitro et 25% de kieselgurs. C'est génial, vous allez apprendre comment fabriquer de la dynamite ce soir. On peut aussi mélanger la nitro avec d'autres composants comme la silice ou des composés actifs. Et donc en effet, la nitro, c'est censé être un objet de sûreté, hein, puisque c'est censé être moins risqué que de la nitro ou même que de la poudre à canon.
Ouais.
Elle est moins sensible au choc et théoriquement, alors, ne faites pas ça chez vous quand même, un bâton placé dans un feu brûle sans exploser.
Ah.
Faut juste qu'il n'y ait pas de détonateur. S'il y a un détonateur, oui. Là c'est un petit peu plus problématique. Mais n'essayez pas ça chez vous. Hein.
D'ailleurs cette semaine, la semaine dernière, il y a eu un épisode de La Petite Maison dans la Prairie où justement on nous expliquait que le bâton de dynamite, il était dangereux que si on mettait le détonateur. Et le mec à la fin il meurt.
Uh-huh.
En faisant une connerie, en sautant sur un bâton et ça pète. Et, ouais.
Et en fait le seul danger qu'il y a avec la dynamite, c'est soit avec le temps ou quand la température est élevée, en fait, ça suinte de nitro. Donc en fait c'est toujours le même problème. C'est la nitro qui en elle-même est super dangereuse.
Mmh.
Et pour le coup, comme c'est quand même un inconvénient, elle est de moins en moins utilisée et elle n'est même plus commercialisée en fait. On ne vend plus de dynamite parce qu'en fait depuis, on a d'autres types d'explosifs plus efficaces et beaucoup plus stables.
Le C4.
Comme le C4, tout ce qui est explosif plastique.
Mais maintenant la dynamite on s'en sert pour vendre Ovo Maltine.
Ah bah oui.
Non, j'ai pas Vince Gump pour vous dire qu'Ovo Maltine c'est de la dynamite.
J'ai pensé mais je savais plus de cette
exception. Ah, vous m'auriez dit ça en rapport avec une barre chocolatée ou du chocolat en poudre, je vous aurais dit oui.
Oui.
Hein. Et donc le paradoxe, c'est qu'en effet, cet outil qui a été fait pour sauver des vies, hein, dès du vivant de Nobel, on l'a critiqué, hein, parce que c'est quand même un outil de mort. Et l'histoire veut que quelques années plus tard, en fait, par erreur, un journal français, en fait, a publié une nécro de Nobel qui était toujours vivant, qui était très critique, en disant que justement, c'était un marchand de mort qui avait créé la dynamite, qui tuait les gens. Et en fait, c'est par rapport à cette nécro, souhaitant laisser quand même une image positive de lui, qu'il aurait décidé donc de changer son testament, puisque c'est à son testament qu'il, en fait, il a rien légué à ses gamins, alors qu'il a gagné plein de thunes quand même avec la dynamite, hein, non?
Wow. Ouais.
Il a donc demandé la création de cette fondation, la fondation Nobel, hein, qui donne donc les prix Nobel depuis déjà un bon siècle. Donc voilà, c'était tout pour l'histoire de la dynamite.
On sait bien, c'était informatif. Du coup, maintenant, on sait un peu l'origine de ce paradoxe.
J'aurais jamais dit que t'es suédois, tu vois.
Et puis comme ça, vous savez comment fabriquer de la dynamite. Donc, si l'an prochain, on va dire, il y a une équipe et un pilote qui seraient sur le point de gagner un quatrième titre...
Alors, Micheline, la dynamite. D'abord, on prend 75 centilitres de nitroglycérine. Ensuite, on rajoute 25 centilitres de poudre de je sais plus quoi. On mélange, on touille. On peut même mettre un petit peu au four si on veut. Ça n'explosera pas, mais c'est pas conseillé. Hein.
Et alors, sinon, en F1, comme la semaine dernière, y a rien. À part le Grand Prix du Brésil de dimanche, mais je crois qu'on va suffisamment en parler pendant toute cette émission.
Juste pour information, c'est Pirelli l'a dit dans son communiqué, le 25 novembre 2001, Richard Burns était champion du monde des rallyes avec Pirelli sur une Subaru mais avec des pneus Pirelli, et il est mort le 25 novembre 2005. Donc voilà, 4 ans jour pour jour, il est mort des suites d'un cancer. Donc voilà, c'était pour avoir un petit souvenir de Richard Burns.
Il nous écoute.
Eh bien, Dino, dans ce cas-là, passons à la suite et passons au quart d'heure de l'invité.
Oui, à l'heure de gloire de l'invité, Shinji.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors, Gaëtan, tu le sais, cette année, nous avons décidé de vous consacrer une heure de gloire, enfin une demi-heure, un quart d'heure où Shinji va effectivement fermer sa gueule. Et bon, avant ça commençait par le pour pas pour, mais bon, depuis quelques émissions, on aime bien savoir quand même depuis quand vous nous connaissez.
Alors, je suis la F1 en général depuis que je suis né, voilà quoi.
Déjà dans le ventre de sa mère, il y avait un petit écran à côté du placenta, au fond à gauche.
Je pense, j'ai le souvenir le plus loin que j'ai, c'est petit, j'entendais mon père qui se réveillait parce qu'il s'endormait entre le repas et la pub du Grand Prix, que ma mère allait le réveiller, du coup il se réveillait un peu en sursaut, et là j'entendais le son de la télé qui montait avec les moteurs qui et du coup on courait avec mon frère, on courait parce qu'on savait très bien qu'au départ il va y avoir de la casse, on allait voir mon père crier, applaudir ou même pleurer des fois.
Oh, ça n'arrive plus ça qu'il y ait de la casse au départ.
De moins en moins. Alors, on a été de plus en plus déçus. Puis il y a eu Romain Grosjean et Hamilton.
Ouais.
Puis voilà. Sinon, pour le SAV, j'ai commencé à suivre grâce à Fan F1. Dans un moment, j'ai trouvé que... Je me suis dit, c'est pas possible que dans F1 à la une, on m'explique toute la nouvelle législation d'une saison à l'autre, qu'on m'explique toutes les modifications techniques, etc. Du coup, c'est en voulant en savoir plus sur ce sport que j'adorais que je me suis dit, j'ai commencé à chercher un site internet qui regroupait toute l'information de manière sûre et certifiée, un peu comme tous les potins, un peu comme le foot, quoi. J'ai jamais été très très fan de foot, mais je voyais tous les sites spécialisés qui en parlaient, comme ça. Et je me suis dit, il doit bien y avoir un site qui fait la même chose. Voilà. Du coup, j'ai trouvé ça, et après j'ai écouté les SAV, et je trouve ça cool comme émission, parce que c'est une manière différente d'aborder l'actualité d'un sport.
Merci. Voilà. Donc ensuite, tu sais très bien, c'est le...
Pour, pas pour.
Alors je rappelle une dernière fois, chers auditeurs, ça fait 20 fois que je vous le rappelle, à un moment donné, il va falloir s'habituer, les auditeurs, c'est pas possible. Hein. Donc je rappelle le principe, c'est 10 propositions qui commencent par pour, pas pour, et à chaque fois tu nous diras si t'es pour ou pas pour, t'as pas le droit de dire contre, sinon t'as pas un gage, mais on te boude, voilà.
Tino.
Oui.
Ils se sont jamais trompés depuis le début de saison, les auditeurs.
Oui, c'est vrai. Non, mais voilà. Mais c'est entretenir suspense, tu vois. J'ai dit, on sait jamais.
D'accord.
Il peut se produire des trucs en fin de saison. Et donc, à la fin, tu pourras revenir sur trois thématiques de ton choix.
Ok.
En notant quand même que il y a une thématique qui est, Non, je vais rien dire. Alors, c'est toi qui me donne le top départ. Quand tu es prêt, tu me dis prêt.
Je suis prêt.
Alors, pour ou pas pour, Alonso ou Hamilton chez Red Bull pour succéder à Vettel?
Pas pour.
Pour ou pas pour, Charles Pic chez Caterham à partir de 2013?
Pour.
Pour ou pas pour, la multiplication des zones DRS en 2013?
Pour.
Pour ou pas pour, la j'en ai déjà chié à l'écrire ce mot et je savais que j'allais en chier.
La titularisation?
Merci, je te dis. D'Esteban Gutiérrez chez Sauber.
J'ai pas compris. La titularisation de...
Merde. Pour ou pas pour, la titularisation... Putain, j'ai réussi. D'Esteban Gutiérrez chez Sauber.
Pour.
Pour ou pas pour, le circuit d'Austin au Texas?
Pour.
Pour ou pas pour, le retour du Grand Prix du Brésil à Rio de Janeiro?
Contre.
Tu vois, je t'ai dit, tout peut arriver.
Mais c'est toi qui m'as mis le doute aussi, punaise.
Voilà, t'as perdu notre respect, voilà, on te respectera plus. Pour ou pas pour que Coca-Cola sponsorise Lotus en 2013?
Pour.
Pour ou pas pour que HRT baisse définitivement le rideau?
Pour.
Intense réflexion.
Pour ou pas pour que Roger Federer prenne la nationalité brésilienne?
Pas pour.
Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Roger Federer a fait une campagne de pub avec Gillette et où ils imaginent ce que ferait Roger Federer s'il était brésilien.
Du foot?
Du foot, du volley. Et ça, quand même, Roger Federer, qui est quand même une icône en Suisse, voilà, le voir faire une pub sous les couleurs du Brésil, c'est quand même assez choquant. Et enfin, pour ou pas pour, Stefano Domenicali?
Pas pour.
Oh. Donc ça nous fait 4 pas pour et 6 pour. À noter donc que tu n'es pas pour Roger Federer qui devient brésilien.
Non, non. Les Suisses n'ont pas de si grands champions que ça, on va leur laisser Roger. C'est pas avec Romain Grosjean qui vont
Ah, t'as vu
il
Romain
est devenu
Grosjean
suisse.
Ah, ça y est, il est plus du tout
Ah bah là maintenant oui, vu ce qu'il fait, oui, il est suisse.
Ah, l'année prochaine il est suisse hein, je suis désolé mais Ah, l'année prochaine, je dis l'année prochaine, je m'engage.
Oui.
Donc voilà, tu peux revenir sur les thèmes de ton choix, enfin sur 3 thèmes de ton choix.
Alors, pour Interlagos, où j'ai dit un bon gros contre, c'est parce que, justement, c'est un circuit que je trouve mythique. Il me semble pas que dans les 20 dernières années, on ait changé. Enfin, ou dans les 10 dernières années, on ait changé de circuit qu'on ait, enfin, au Brésil. Si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons.
Ça fait un plus de 20 ans qu'on ouais.
J'acquérais pas quoi dans les années 80 à Rio. Et on était déjà allé à Interlagos avant sur un circuit qui était juste c'était un tourniquet quoi, ça tournait voilà. Dans tous les sens.
Mais ouais, ça doit faire 20-25 ans oui qu'on
Du coup, c'est un petit peu par nostalgie quoi. Je sais pas, l'habitude d'Interlagos voilà.
Et puis franchement, il y a eu des courses incroyables à Interlagos.
C'est ça aussi.
Bon, il y a eu dimanche mais il y a pas eu que ce dimanche là quoi.
Quand en plus
c'est le dernier de la saison quoi. Non.
Bah, j'ai eu la chance, comme pas mal de gens en ce moment, qui arrêtent pas de m'en parler. Je sais pas pourquoi, c'est Canal qui doit repasser souvent le film. Bah, j'ai eu la chance de voir le film Senna. Et quand tu vois la course qu'il fait à Interlagos, ça a changé ma vision, en fait, de ce Grand Prix, clairement.
Et en plus, là, le circuit pour le projet de circuit qu'ils ont, est pas terrible, terrible.
Ensuite, il y avait, j'ai dit pas pour Stefano Domenicali. J'ai un peu hésité parce que est-ce qu'on peut dire que Ferrari aurait été mieux avec quelqu'un d'autre que lui? On pourra jamais le savoir ça. Enfin, sauf s'il le vire un petit coup. Mais j'ai pas trouvé qu'il était. J'attendais quelque chose de mieux. Vraiment quelque chose de mieux. Je sais pas. Je pense que. Peut-être qu'il s'est pas habitué. Pourtant, ça fait déjà une ou deux saisons, non? Mais
non, ça fait même plus. Ça fait depuis 2007.
Attends, ouais. quand Raikkonen 2000... a gagné, c'était encore Jean Todt.
Ouais, donc c'est 2008, depuis 2008.
Voilà. Ah, voilà, du coup, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là, qu'il sait comment la F1 fonctionne, et je sais pas. Je n'ai aucun argument pour dire qu'il est pas bon, hein, mais et je pense qu'il doit être bon quand même. Mais je sais pas. Il m'apporte pas la satisfaction escomptée.
Bah, c'est vrai qu'en plus, bon, il a un côté, il fait moins grand patron que employé de Ferrari. Sans préjuger de son talent. Hein.
On l'entend pas beaucoup, même dans, je sais pas, mais ça doit être aussi un petit peu la médiatisation de Jean Todt qui était français. Du coup, les interviews étaient, je pense, beaucoup plus faciles. Et je me rappelle d'une omniprésence.
Le pire, c'est que Domenicali parle en français très bien d'ailleurs, qu'il a déjà interviewé.
Ah oui, il sait parler français, mais il n'est pas français, c'est ça le problème.
Mais je pense aussi, c'est que à la différence de Jean Todt, c'est que Dominic Ali, il est moins politique que Jean Todt. C'est-à-dire que Jean Todt, il avait vraiment occupé une position où on le laissait faire aussi, parce qu'il avait aussi amené des résultats et compagnie. Dominic Ali, dès le départ, de toute façon, il est dans une sorte de système bicéphale où il est le responsable de la gestion sportive. D'ailleurs, c'est son titre chez Ferrari, le directeur de l'écurie. Mais derrière, il y a quand même Luca Di Montezemolo qui prend les décisions stratégiques et compagnie pour la vie de l'écurie. Donc je pense que voilà, il est aussi plus discret parce que il a surtout les gros sujets importants, c'est pas lui qui parle, c'est Di Montezemolo. Sur les accords Concorde et compagnie, c'est rarement Dominic Ali qu'on entend, c'est plutôt Di Montezemolo.
Après on verra bien, est-ce qu'ils ont des contrats aussi chez Ferrari comme ça avec eux, ou ils peuvent les virer comme ils veulent?
Non, ils peuvent les virer comme ils veulent. Mais c'est d'ailleurs ce qui est formidable avec Dominic Ali, quoi, c'est que le mec, il a quand même quasiment tous les débuts de saison, on demande sa tête. Début 2010, je crois qu'on demande.
Non, de toute façon, 2010, chez Ferrari, on demande toujours les têtes à tout le monde tant qu'il gagne.
Mais
pas.
Début 2011, on demande sa tête, on l'obtient pas. Début 2012, on demande sa tête, il l'obtient pas. Voilà, à chaque fois, il traverse. C'est le Felipe Massa des patrons d'écurie, ce mec. C'est le mec, tout le monde veut le virer, mais personne n'a sa peau, donc
mais il vient d'où, en fait, Dominic Ali? Je sais pas si vous savez, parce que on l'a vu arriver comme ça, quoi. Hop.
Promotion interne.
Sinon, je me rappelle plus pourquoi j'étais pour. Je vois que j'ai une bonne liste, mais.
Alors pour donc Shark Peak chez Caterham, la multiplication des zones DRS en 2013, la titularisation d'Esteban Gutiérrez chez Sauber, le circuit d'Austin, Coca-Cola qui sponsorise Lotus et HRT qui baisse définitivement le rideau.
Ok, pour le DRS, tout simplement parce que quand ils l'ont instauré avec le KERS, j'étais pas convaincu. Comme tout fan, je me suis dit oh non, on n'a pas besoin pour avoir du spectacle. Sauf que il faut dire que depuis qu'ils ont mis ces deux systèmes, on voit que les grands prix sont quand même un petit peu plus marrants à regarder et plus jolis aussi, même si ça n'empêchait pas des belles passes d'armes avant. Du coup, ouais, je suis vraiment pas contre, quoi. Je trouve que c'est bien parce qu'après on pourrait parler, enfin, si on parle plus de la Formule 1, ben c'est toujours bien.
Mais sur le fait qu'en 2013, on restreigne l'utilisation du DRS uniquement dans la zone DRS pendant tout le week-end, alors qu'actuellement on peut faire ce qu'on veut jusqu'au qualif. Et par contre, qu'en échange, on multiplie le nombre de zones DRS, qu'est-ce que t'en penses?
Bah en fait, ouais, moi je trouve que qu'ils fassent ça, qu'ils réduisent à l'utilisation dans deux zones bien distinctes et je trouve ça mieux. Enfin je me rappelle, j'ai joué en jouant à au jeu de F1 2012. Et en faisant les qualifs, c'est vrai que c'est là que j'ai compris que ah oui, d'accord, non, c'est pas un bug du jeu, on peut utiliser le DRS pendant toutes les qualifs là où on veut. Après, je sais pas, je trouve que ouais, deux zones bien distinctes sur je trouve ça bien.
De toute façon, après, en fonction de, bon, en effet, au-delà de deux, on imagine mal, enfin, je vois mal un circuit avec trois, peut-être à Spa, quoi, vu la longueur, mais,
Après, il faudra peut-être aussi revoir aussi la vocation du DRS, c'est-à-dire que ce sera peut-être plus nécessairement de créer des opportunités de dépassement, mais peut-être de créer des opportunités de maintenir l'écart en autorisant des micro-zones DRS pendant la course, qui permettront dans des endroits stratégiques de maintenir des écarts. Je pense par exemple à Suzuka, il y a des endroits où les mecs utilisaient le DRS, mais juste une ou deux secondes à peine, où on pourrait pas faire une zone DRS parce qu'à la fin il n'y a pas de dépassement possible, mais où on pourrait quand même créer une zone DRS pour dire voilà, à cet endroit-là ils ont le droit de l'utiliser.
Clairement, oui.
Et sinon, toi qui lis beaucoup Fan F1, qui actualise régulièrement, qui consulte régulièrement Fan F1, quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre? Je vais faire une super pub pour Fan F1.
sur Fan F1, j'avoue que à un moment je lisais tout, mais maintenant il y a des vraiment, je sens les news où ça sent pas bon, tu vois, le truc où t'as pas vraiment pas envie, quoi. Après ces derniers temps, voilà, Barrichello juge un retour en F1 improbable. Encore Barrichello, enfin, je l'adore, hein. Mais bon.
On pourrait dire enfin.
Oui.
Oui. Enfin, il se rend compte.
Voilà, quoi, je sais pas, je trouve c'est redondant de répéter encore. Enfin, ok, il est médiatique, mais à un moment, j'ai l'impression qu'il agite un petit drapeau. Ouh, je suis là, regardez-moi, je suis pas mort, j'existe encore.
Mais ce week-end, on a parlé sérieusement de rumeurs l'envoyant chez Caterham l'an prochain. Et lui-même a nié, quoi. Non, non, pas Caterham. Alors ensuite, quelle actualité hors Grand Prix aimerais-tu lire dans les prochaines semaines ? C'est-à-dire que déjà, dans le cadre des Grands Prix, ça sera très dur de lire une actualité dans les prochaines semaines.
Oui.
Donc voilà.
Que les grands prix historiques entre guillemets restent intouchables au calendrier. Une annonce de Bernie qui dit ça. Spa, enfin pour moi Spa, Monza, Monaco.
Pas le Hungaroring.
Non.
Je me renseigne.
Non. Enfin, je trouve que c'est voilà, ils ont apporté quelque chose. C'est des trois grandes, enfin trois beaux circuits. À chaque fois, on a droit à trois grandes courses et voilà. Donc, enfin pour moi, leur place est bien. Doit être scellé, quoi. On doit pas nous dire oui, peut-être que ils vont sauter. Non, il n'y a pas à les faire sauter.
Et il y a eu une proposition au début de saison qui suggérait de plus fortement doter certains grands prix historiques comme Monaco, par exemple, Suzuka, Spa, notamment peut-être en termes de points. Toi, tu y serais opposé ou plutôt pour?
Je vois pas en quoi ça apporterait plus de valeur en fait. Enfin, après c'est le pilote. Enfin, en termes de championnat, je trouve que le pilote, s'il marque déjà, enfin s'il finit en premier, qu'il marque 25 points, après c'est lui, c'est sa satisfaction personnelle d'avoir gagné à Monaco ou à Monza. Après, je vois pas l'intérêt en fait d'augmenter les points dans ces grands prix, quoi. Ils sont pas plus durs que les autres, et enfin techniquement, normalement, ils seraient pas plus durs que les autres. Ils sont mythiques, mais voilà.
C'est ce que dit Weber. Il dit bon, moi, j'ai que deux victoires cette année, mais bon, de bonnes victoires. Oui, bah, Silverstone et Monaco, oui. C'est voilà, oui. Ensuite, au contraire, quelle serait l'actu, toujours hors Grand Prix, mais bon, ça, on s'en fout, que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines.
Qu'est-ce que j'aimerais pas lire dans les prochaines semaines?
Barrichello, non.
Bah justement non, ça me gênerait pas du tout. D'ailleurs que je suis la F1, c'est le seul pilote qui était toujours là sur la ligne tout le temps. Il était constant, il était tout le temps là. Les autres changeaient, partaient, mais lui il était encore là. Mais du coup ça me gênerait pas quoi, ça il reste mythique. Ce que j'aimerais pas lire c'est que la F1 est diffusée en France mais de manière trop chère, par exemple sur Canal+, avec des tarifs excessifs, quoi. Trop excessifs pour mon portefeuille. Ça me gênerait pas qu'elle soit payante, de payer pour visionner, mais ça me gênerait que ce le soit trop, quoi. Voilà.
Mais tu sais que ça pue quand même.
Bah, ah oui.
Alors, si t'as écouté les commentaires,
j'ai bien écouté. Ouais.
Merci pour ces 10 ans. Ah d'accord, on a compris.
Non mais surtout, ce qui est très drôle, c'est que t'as Malbran qui dit merci pour ces 10 ans, et t'as les deux autres, ils essayent un peu de sauver les meubles, tu vois, genre de dire oui. Ils insistent beaucoup sur la saison 2012. T'as Jacques Lafitte qui nous souhaite un bon hiver.
Mais voilà. Il a fait un tweet.
Mais voilà.
Tous les quatre. C'est mon dernier tweet sur le compte F1 La Une. Ah, d'accord.
Oui, bientôt ce sera F1.
Mais ça prend du temps cette histoire, hein, parce que
ça prend énormément de temps, parce que ça a commencé au mois d'août et il n'y a pas eu de décision officielle. En tout cas, rien n'a été communiqué.
Même pour Canal, parce qu'il va falloir pour Canal, il va peut-être falloir recruter des gens. Ouh, Canal, on est là.
Il va falloir. Quand tu vois que la NBA, ça s'est décidé la veille ou le jour même de la début de saison.
Nouer des contacts peut-être aussi avec les équipes, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut aussi recruter des présentateurs et compagnie. Donc c'est même pour Canal, ça serait bien que ça se résolve vite.
Après, est-ce que c'est au niveau des chaînes qui seraient en train de s'entre-déchirer entre guillemets pour qui va proposer le plus gros chèque, ou est-ce que c'est au niveau de la FOM? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau de la FOM. Sur justement quel aspect finalement, quelle diffusion on donne à la F1 l'an prochain en France.
Pour Canal aussi, on m'a évoqué un truc, c'était que en rachetant la chaîne D8, le comité des droits télévisuels les empêchait de faire vraiment tout ce qu'ils voulaient avec D8. C'est-à-dire ils avaient vraiment deux fonds dissociés. Je ne sais, j'ai pas vérifié l'info du tout.
Hein. Oui, au niveau du CSA, en effet, lorsqu'ils ont racheté pour des questions de concurrence et tout ça,
voilà.
Ils ont mis des choses très très contraignantes.
Du coup, je doute, après cette annonce, je doute que D8 a les fonds de base pour racheter la F1 qu'ils aient prévu, mais je sais pas, on verra bien après. Hein.
Et donc enfin, est-ce que tu as un drive-thru of the weekend, un petit carton rouge à donner ou un carton jaune à toi?
Ben c'est un petit peu, ouais, je pense que je vais partir dans les directions. Un drive-thru adressé aux gens qui ne connaissent pas la F1 et qui pensent la connaître. Et qui en parle. C'est-à-dire que moi personnellement, tu vois, je suis à la fac, je suis sur mon PC, je consulte Fan F1, et là, on m'a déjà retorqué, oh, c'est pas un sport. Tu vois, les choses comme ça. Tandis que si on s'y intéresse un peu, c'est plus qu'un sport. Alors, ou c'est un sport individuel ou que mécanique. Non, c'est une quintessence de plusieurs choses. C'est pas que physique, c'est pas que mécanique, c'est pas individuel, c'est une quintessence de tout. Alors, du coup, voilà. Un petit drive-thru, parce que des fois, quand j'en entends parler mal, je trouve ça dommage, quoi.
J'ai dit, tu as un drive-thru?
Oui. Alors, j'ai été très, enfin, je pense comme certains, j'ai été intéressé de savoir qu'il y avait la petite amie de Fernando Alonso, dans le stand Ferrari. Par contre, au bout de la 14e fois qu'ils ont montré des plans sur la petite amie de Fernando Alonso, non. Voilà.
Oh, je suis dit, c'est des plans sympas.
Oui, mais ça ne sert à rien.
Non, mais ça change. C'est-à-dire que pendant longtemps, ça a été la petite amie de Lewis. Bon, là, c'est la petite amie de Fernando.
Je peux comprendre, parfois, il se passe des choses en piste et tu vois la réaction. Mais là, non, c'était même pas pour montrer des réactions. C'était juste pour montrer la petite amie de Fernando Alonso. Son petit mannequin russe, là. Parce qu'il les aime jeunes, hein, quand même.
Voilà. Bah, ça, on y revient un peu au fait qu'il y a un seul et unique réalisateur, quoi.
Ah bah oui.
C'est comme quelqu'un qui était à côté de moi me disait, mais pourquoi ils remontent pas le départ? Et là, j'ai dû expliquer, écoute, il y a qu'un seul réalisateur, ce n'est pas TF1. Ils choisissent pas leurs images, ils subissent comme nous. Du coup, je trouve ça dommage.
Ils déjà pour leur pub. Voilà.
Oh, punaise. Le nombre de pubs qu'ils ont mis pendant ce Grand Prix, je sais pas, ils ont augmenté les pubs, là.
Il y a des moments, mais alors là, le pub au moment du restart, tu te dis, mais voilà, on va louper le départ. Et en fait, non, c'est pas assez juste.
Mais ça arrivait plusieurs fois cette saison que voilà il coupait vraiment n'importe où et après ah bah lui il a dépassé lui il est parti, voilà, et on nous montre des replays et au final oui bah merci, on avait envie de vivre le moment nous aussi, quoi.
Sinon Dino?
Ah, moi ce sera un gros drive-thru parce que plus les semaines passent plus il m'énerve. C'est Sergio Pérez qui a quand même magnifiquement spoilé l'annonce de la titularisation de Gutiérrez en disant jeudi. Donc Sauber avait déclaré qu'il ferait une déclaration durant le week-end du Grand Prix et peut-être même quelques heures après le Grand Prix. Et donc Pérez, lors d'une conférence de presse ou lors d'une interview, a dit oui, non mais l'année prochaine ils auront une équipe forte avec Hülkenberg et puis son coéquipier Gutiérrez. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est pas une boulette, quoi. C'est vraiment Carlos Slim Jr. avait déjà dit que ça serait Gutiérrez. Lui, il le fait. Voilà, je trouve que ça manque énormément de respect à l'égard de l'équipe Sauber, qui du coup a peut-être dû modifier sa communication pour faire une annonce assez rapidement, parce que voilà, c'était plus qu'un secret de polichinelle. Bon, c'est pas dramatique, mais quand même, voilà, je trouve que ça manque un peu d'élégance pour une équipe qui t'a fait débuter en Formule 1, que tu as fait deux saisons. Enfin, voilà, la priorité, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui est maîtresse de son moment pour communiquer. Voilà. Fin...
À noter, pour rester dans un thème proche, ça fait plusieurs fois en saison qu'on vous parle de la fameuse série animée Tund de McLaren. Ah, oui. Il faut absolument voir le 12e et dernier épisode de Tund.
J'ai pas eu le temps de le regarder.
Ah, il faut le voir, rien que pour la fin.
Je vais aller le voir en direct, tu vois.
Outre le fait qu'il y a une personne qui apparaît déjà, enfin qui n'apparaît pas vraiment, mais c'est assez fun de qu'il soit dedans. Et il y a le truc à la fin.
Mais sinon, je voulais revenir un peu sur Pérez. J'ai l'impression aussi que je n'ai pas vu, mais il a pas dit au revoir à son écurie, quoi. En gros, il a signé chez McLaren, il a pas remercié, enfin contrairement à Lewis qui thank you McLaren, etc. Lui, waouh, quoi.
Il y a eu des tweets dans tous les sens de la part de Sauber pour dire oui, merci à tout le monde et tout ça. Mais c'est vrai que de sa part, ça, je ne sais pas. C'est vrai que comparé à Lewis.
Après, c'est peut-être pas la même histoire d'aussi.
Mais pour éviter tout simplement ça, je veux dire qu'un pilote se déconcentre, parce qu'on l'a très bien vu depuis qu'il a signé, il se déconcentre, il c'est plus le même pilote. Est-ce que ce serait pas mieux de demander, comme au foot, une zone transfert et d'éviter que ça pourrisse en plein milieu d'une saison, enfin ça pourrit pas une saison, mais je veux dire c'est assez anarchique en ce moment quoi.
Mais ouais, pourquoi pas, en effet, entre le dernier Grand Prix et puis le mois de décembre quoi, à peu près, en effet, qui serait réservé entre guillemets aux officialisations et aux signatures. Dino, quelque chose à rajouter? Ah mais regarde.
Non, je n'ai rien à rajouter. Et oui, effectivement, on entreaperçoit deux personnages qui font plaisir
voilà.
à voir. Avec des petites références et tout, et l'histoire est bien ficelée. La petite est bien ficelée.
Et bizarrement, quand ça s'est ouvert et que j'ai entendu le hola, j'ai pensé à Fernando. Non, c'est bien.
Oui, il y a du mystère, c'est vrai. Oui.
Moi, je sais jamais s'il change d'avis d'ici le mois de mars.
Sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, on proposerait McLaren à Alonso. Je crois qu'il serait peut-être pas forcément contre.
Je sais pas. Je sais pas si je fais une bêtise en disant ça, mais je pense que il espère encore avoir un titre avec Ferrari et il s'accroche, quoi.
Ah bah, faut qu'il y ait.
Ça sera un échec si c'était pas titre avec Ferrari.
Ouais, c'est ça. Il se sent dans l'obligation d'eux. Donc, je pense pas qu'il partira sans un titre.
Ah, l'année prochaine.
Voilà. Par contre, quand il aura son titre, je pense que la saison d'après, il peut très bien se barrer. À moins que
Red Bull.
Ah oui, à moins que Ferrari domine quoi, vraiment.
Pour moi, je suis désolé, mais pour moi, c'est la bombe de la semaine quand même. C'est quand même Dietrich Mateschitz, qui est quand même le propriétaire de Red Bull, qui dit ouais, si Vettel s'en va, bon, ça laissera la porte ouverte à Alonso et Hamilton. Et là, tu dis waouh, attends. Bon, d'abord, tu nous emmènes loin. Bon, d'accord, ok, mais là, c'est quand même une info.
Je pense que dans son esprit, il y a plus l'idée d'un échec d'Hamilton chez Mercedes. Qui repartirait chez Red Bull.
Oui.
Mais je pense que pour Hamilton aussi, hein, c'est calculé entre guillemets quoi. C'est, je pense que il sait très bien qu'il a l'assurance McLaren au cas où, qu'ils sont encore prêts, et l'aventure Mercedes qui ouvre grand les bras et pourquoi pas quoi. Après Weber.
Ah, McLaren ils sont très trahis, ils sont inconsolables.
Weber à chaque saison on dit que il va partir, mais.
Il y a bien un moment, ça va bien arriver.
Voilà, il va bien finir par laisser son baquet, quoi. Puis après, moi, je trouve, oui, ça m'a fait sourire cette news, mais ça porte à tellement loin que,
quand tu regardes les contrats de chacun, alors Vettel, c'est 2014, et apparemment, il y aurait peut-être aussi des prolongements derrière. Alonso,
2016.
C'est 2016, mais il se murmure qu'en fait, jusqu'en 2016, ça pourrait être des contrats options, c'est-à-dire qu'il aurait la possibilité de partir s'il le souhaite. Et puis, bon, bah, Lewis Hamilton, 2015. C'est 2015. Donc voilà, c'est vrai qu'on est quand même très loin.
Dino, c'est tout pour l'heure de gloire de l'invité?
Oui.
Très bien, et bien. Dans ce cas-là, nous allons passer à la course. Et comme d'habitude, on va commencer par les qualifs. Cette semaine, place du con, Romain Grosjean. Bon, hein. Fallait pas repartir dans une HRT.
Non, mais je comprends même pas que... Romain! Non, mais sincèrement! C'est pour que Maldonado ait l'air plus intelligent que toi, c'est quand même, il y a un truc.
Romain, on veut bien te défendre. Je veux dire, quand on était à Spa, ok, on veut bien te défendre. Mais là, quand même. Il y a un moment, c'est plus possible.
Personnellement, j'avais un mariage samedi, du coup, je n'ai pas pu suivre les qualifications en direct.
Tu as raté la manœuvre de dépassement de Romain Grosjean.
J'ai vu tentative de dépassement de Romain Grosjean en Q1, si je me trompe pas. Et voilà, et boulette, quoi. Alors, je m'attendais à un gros carton, quoi. Genre, un bon gros coup de volant. Mais en revoyant les images sur le net, même, je crois, sur FanF1 qui avait mis une vidéo, j'arrive pas à comprendre comment ça s'est passé, quoi. Il se fait passer et il prend la voie d'entrée des stands pour, justement, le redépasser et l'autre,
il le voit
pas.
Mais en fait, c'est ça qui est problématique, c'est que tous les pilotes qui sont sur un tour rapide empruntent la voie des stands en flirtant avec le mur à cet endroit-là et ensuite continuent, et c'est juste pas compréhensible que à cet endroit-là Romain Grosjean se soit dit dans sa petite tête: je suis tellement plus rapide avec ma Lotus que de la Rose X à HRT que je vais réussir à provoquer une distorsion temporelle qui va faire que ma voiture va pouvoir passer rapidement entre le rail et la HRT. C'est typiquement le genre de situation dans laquelle se met Grosjean. Je pense à un truc, je le fais.
Ah ouais.
Alors, faudrait penser à un truc, envisager d'autres éventualités et le faire.
Surtout quand t'as toute la partie droite de la piste qui est complètement libre.
Oui.
Voilà.
Moi, j'ai clairement cru qu'il allait rentrer au stand et qu'au final, ils lui ont dit non, refais un tour en voyant les images, tu vois, sans commentaire, et qu'il a tourné un bon coup, il se dit allez, ouais.
Encore. Ah, parce que s'il rentre au stand, il serait arrivé beaucoup plus lent.
Puis il s'est expliqué, non, il voulait passer, il pensait que la HRT se déplacerait comme par magie.
Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour sa communication, parce après dans F1 à la une, ils ont remontré l'interview et le mec, oui, je me suis accroché, je pensais que ça passerait. Ok, ciao.
Ouais, d'accord.
C'est bien, garçon.
Il a pas encore été renouvelé, hein. Il faut pas oublier qu'il y a des clients quand même qui ont pas de baquet.
J'ai l'impression qu'il se dit que moins il en parle, mieux c'est. Mais à un moment, en même temps, je le comprends. Il sait plus comment tourner le truc, quoi. S'il dit ah oui, j'ai encore fait une connerie, il se tire une balle dans le pied. S'il dit qu'il s'en fout, les gens, enfin, on peut dire ah oui, attends, garçon, tu t'en fous, ça fait quand même 20 fois. Il est vraiment dans une position très inconfortable.
Le problème, c'est que l'important, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait.
Voilà,
c'est ça le problème.
Là, il fait une boulette, pour moi, elle est totalement imputable à Grosjean.
C'est même étonnant qu'il ait pas eu de pénalité. Bon, tu me diras, il était déjà 18ème,
J'ai même envie de dire, c'est une double boulette. C'est d'abord une faute de Grosjean, dans la mesure où il sous-estime le risque qu'il y a. Et en plus, je pense que là, c'est pas seulement un problème de Grosjean, mais c'est un problème de tous les pilotes du plateau, en tout cas les pilotes des bonnes écuries. C'est qu'ils ont tendance à penser que les HRT, les Marussia, les Caterham, elles ont qu'à s'effacer devant elles. Voilà, Romain Grosjean, il s'attendait à ce que De La Rosa, sur son tour rapide, à ses cartes, tel Moïse ouvrant la mer, il dit voilà, je vais arriver, ah va se mettre gentiment sur le côté, mais non, mais il fait sa qualif, le mec il paye sa licence comme toi, l'écurie elle paye ses droits de participation au championnat comme toi, donc voilà, il fait sa qualif, il est dans sa course, donc à un moment donné, t'es pas à un tour, t'es dans un truc de qualif, t'es peut-être plus rapide, mais bon ça c'est dans le cas partout, il peut pas sacrifier non plus son meilleur temps pour te laisser passer.
Un peu comme ça s'était produit, je ne sais plus, j'arrive pas à avoir la même mémoire que vous sur, je sais plus à quel Grand Prix Vettel qui double très rapidement et qui dit qui pense être déjà passé, qu'il se rabat et il crève quoi, parce que non, t'es pas passé garçon, hein. C'est long une monoplace.
Oui, ils ont tendance à penser qu'à partir du moment où ils sont à côté, ça c'est dingue parce que quand tu leur demandes, ils te le disent, hein, texto, que quand ils sont à côté de la voiture, c'est comme s'ils ont dépassé. Non.
C'est comme Vettel à Austin qui se met à gueuler sur Kartikeyan, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le mec, il est dans DS. Il, à un moment donné, oui, il peut peut-être essayer de te laisser passer. Il peut pas non plus se sortir volontairement de la piste pour te laisser passer. Enfin, à un moment donné, il faut juste avoir un doigt du jeu et comprendre que le mec aussi fait sa course et que c'est pénible aussi de faire des courses. Hein, surtout chez HRT, les mecs sont déjà au volant d'une trapanelle. Et en plus, les mecs au bout de 10 tours, ils ont déjà les drapeaux bleus. Ils ont déjà au bout de 10 tours leur course. Elle est déjà morte. C'est quand on lit les communiqués des pilotes du fond de peloton, c'est ce qu'ils disent. Ils disent dès qu'on a les drapeaux bleus, c'est mort parce que on est obligé de s'arrêter. On perd 5 secondes, même si l'autre devant, il va aussi devoir s'arrêter, il va perdre 5 secondes. On est toujours en train de changer de rythme. On n'a pas la possibilité de trouver un véritable rythme dès qu'on commence à tomber sur des drapeaux bleus. Et voilà. Donc à un moment donné, les mecs peuvent pas non plus disparaître de la piste. Quoi. Donc voilà. Donc c'est un double phénomène. Je pense. Grosjean, c'est d'abord le phénomène du mec d'une écurie de pointe qui se dit je suis plus rapide, je vais le dépasser. C'est une formalité, et en même temps le mec il se dit mais je vais passer à l'intérieur, entre le rail et lui ça passe. Ça va le faire.
Il y a que Barrichello qui a réussi une fois. Il n'y avait pas beaucoup de place.
Et puis c'était Schumacher à côté.
Mais ça, tu vois, j'ai l'impression aussi, je sais pas si c'est un ressenti, mais que y a toujours eu des retardataires, il y aura toujours des équipes moins bonnes que d'autres, mais il y a toujours eu, un minimum de respect, quoi. Enfin, j'ai l'impression que avant, c'est peut-être qu'ils étaient plus matures les pilotes de Top Team, mais que voilà, quoi, que ils s'effacent, ils demandaient pas à ce que les retardataires s'effacent aussi, voilà quoi, ou râler.
C'est vrai qu'il y a toujours eu des retardataires, faut pas dire que c'est que maintenant, il y en a toujours eu.
Je pense surtout c'est que la différence, c'est qu'avant, un pilote, avant d'être dans une écurie de pointe, il était passé dans une écurie de fond de peloton. Aujourd'hui, les pilotes, les Lewis Hamilton, les Vettel, ou quoi que Lewis Hamilton, sur les retardataires, ils gueulent rarement. Mais Vettel, Grosjean et compagnie, ils ont jamais été dans cette situation.
Ils sont dans les écuries au milieu, pas au fond.
Voilà. Alonso, ça lui arrive de gueuler sous le coup de colère, mais après dans la presse, il vient pas s'épancher compagnie parce qu'il sait ce que c'est. Il a été Chiminardi, le mec. Voilà, il a été dans cette situation-là. Il sait ce que c'est de se battre dans une écurie. Et moi, je dis que on devrait instaurer un point du règlement qui fait que un pilote ne peut pas faire sa première saison dans une des 5 écuries de pointe. Il faut à un moment donné qu'il apprenne. La vie, elle a dure. De la même manière qu'en football, bah tu fais les petites. Les mecs, ils arrivent pas directement à Barcelone. Ils font d'abord des matchs. Ils font les centres de formation, ils font ensuite des matchs avec la réserve et compagnie, ils s'aguerrissent et ils apprennent le métier. Là, les mecs, tu les fous dans une bagnole, ils ont déjà quasiment l'une des meilleures voitures et ils savent même pas ce que c'est que courir en fond de peloton. Mais qu'on mette de temps en temps, je crois que c'est Carquillon qui l'avait dit en début d'année avec elle, qu'ils prennent ma place et on en rediscutera après. Et ça serait peut-être intéressant un jour de faire comme ça une course à blanc en mettant Vettel, Grosjean et des mecs comme ça qui ont tendance à râler sur les retardataires dans leur bagnole juste pour voir, juste pour qu'ils profitent un petit peu du moment. Je pense qu'ils vont tirer des grandes leçons et un peu d'humilité.
On est d'accord. Mais après, c'est aussi, en parlant de Grosjean, j'ai beaucoup plus de, d'admiration envers Charles Pic qu'envers Grosjean. Vraiment, je trouve la saison de Charles Pic, mais vraiment très belle saison.
Elle est excellente, la saison.
Pourtant, il est pas dans une écurie de pointe et
mais c'est ça aussi qu'il couvre entre guillemets.
Voilà, on parlait de lui mais pas trop et du coup, il était tranquille et il a pu vraiment apprendre et s'épanouir. Voilà, et je pense que le poids médiatique de Grosjean, en plus son mariage n'a pas arrangé les choses en termes de poids médiatique. Tout ça, quoi, ça a fait que.
Puis son début de saison, enfin, il fait un début de saison exceptionnel face à Kimi Raikkonen. Tout d'un coup, ça le propulse, quoi. C'est le futur Alain Prost et compagnie. C'est peut-être tout simplement trop de pression. Là où effectivement c'est aussi un confort d'être au fond de grille parce que voilà, t'apprends ton métier, on s'occupe pas trop de toi quand t'abandonnes, tu fais une connerie compagnie, on s'attarde pas trop parce que de toute façon tout le monde s'en fout plus ou moins. Il se trouve que Charles Pic a fait très peu d'erreurs, il fait une saison fantastique, c'est sans doute actuellement le meilleur français qu'on a en F1. Peut-être
par rapport
le plus
à son matériel,
prêt.
Ouais.
Mais voilà, il y a ça aussi qui joue, quoi. C'est là aussi où c'est nécessaire, c'est aussi un peu de quiétude. Là aujourd'hui, moi c'est pour ça que je suis un peu, pour Grosjean, je suis un peu le cul entre deux chaises, parce que à la fois je me dis visiblement il apprend pas de ses leçons, il fait boulette, enfin voilà, il fait une erreur à Austin, là il en fait une en qualif, il se remet au tas en course sous la pluie où il devrait s'adapter, même s'il lui dit qu'il s'adaptait, visiblement il s'est pas suffisamment adapté en décélérant pas suffisamment. Bon, ça fait quand même beaucoup de grands prix qui se cartonnent, qui commet des erreurs et compagnie, quasiment 1/2, mais en même temps tu te dis il a peut-être pas non plus eu le temps de se concentrer, il lui arrivait des merdes dont il est responsable, et c'est ce qui me fait un peu hésiter, c'est que je me dis j'aimerais quand même le voir l'année prochaine après une intersaison où il aura quand même là eu le temps vraiment de se poser, de s'asseoir, de repenser, de peut-être revoir profondément sa préparation et compagnie, parce qu'il a posé les bases. Mais il faut quand même se rappeler que Spa c'est arrivé il y a 3 mois, qu'en 3 mois il y a eu quasiment une dizaine de grands prix, et que c'est impossible de revoir ta préparation, de changer tes repères, de changer tes habitudes quand t'as un grand prix toutes les semaines quasiment, quoi. Donc,
par contre, je pense que s'il est prolongé, ça sera que d'1 an.
Bah oui, bah ça c'est certain.
Et faut pas rêver, hein. S'il refait une saison 2013 comme cette saison-là, voilà, je veux dire, déjà qu'on a, en début de saison, on disait qu'il avait eu une deuxième chance, vu qu'il était passé en F1, qu'il était redescendu, qu'il était revenu. 2, c'est déjà exceptionnel d'avoir une deuxième chance. Il y a pas 3 chances, hein.
Ouais.
Surtout vu tout ce qui frappe à la porte, hein, en ce moment. Allez, en Q2, eh bien, on retrouve nos 2 Toro Rosso, hein, c'est presque une habitude, hein, 16 et 17, donc Vergne 17, Ricardo 16. Il est content au moins, Jeff, pour une fois, c'est pas lui qui a la 18e place. Kobayashi 15, Schumacher 14, Perez 13, Bruno Senna 12e place et Paul Di Resta 11e. En Q3, on trouve Nico Rosberg à la 10e place. Oui, on vous rappelle, il est encore en F1. C'est vrai, on le voit plus depuis 6 mois, hein, mais il est encore en F1, hein, on vous rappelle. 9e place pour Kimi Raikkonen, 8e pour Alonso.
Moche.
C'est quand même sur le coup, c'est pas extraordinaire.
Dans la lignée des derniers Grands Prix, hein. Ben, ce que fait Alonso sur les derniers Grands Prix, c'est pas extraordinaire en qualif.
Ah, pas du tout, mais.
Surtout comparé à Massa.
Voilà.
Oui,
c'est. Quand on compare à Massa, j'avais espéré, je me dis, bah, c'est bon, ils ont fait un réglage un petit peu. Vu qu'on avait 60% de chances d'avoir de la pluie, ils ont fait un réglage un peu plus typé pluie, mais après, quand on voit la déclaration de presse où il dit, non, c'est pas notre genre, hein, de faire une voiture un petit peu plus pluie et de... Non, j'ai bien merdé. Ok, bah. Ok, décevant.
Hülkenberg à la 7e place. Ce qui était bien, mais on était habitué de la part d'Hülkenberg à ce moment-là. Maldonado 6, Massa 5, là encore, dans la continuité de ces derniers Grands Prix quand même, Massa. Ouais. Vettel 4, ça aussi c'était un peu décevant, enfin, je veux dire, ça faisait quand même quelques Grands Prix de suite où Vettel était premier, deuxième.
Moi ça m'a moins étonné, je m'attendais à un résultat comme ça de Vettel parce que on l'a vu, il a du mal encore avec la pression. On aura l'occasion d'y revenir pendant la course, enfin... Je pense que la pression justement du pass loupé a fait que.
Mais clairement là sur ce Grand Prix là, elle pouvait pas espérer grand chose de plus que les Red Bull,
oui.
que la deuxième ligne les Red Bull. Mais je sais pas, moi j'ai quand même eu l'impression à un moment donné que Vettel pouvait faire quelque chose et finalement c'est pas venu sous le drapeau d'Amier. Donc voilà, bon bah c'est pas grave.
En même temps c'était pas catastrophique dans son optique.
Non, quatrième voilà. Plat. Lui il avait juste besoin d'être devant Alonso. Voilà. Quoi qu'il arrive, il fallait être devant Alonso. Il n'avait pas regardé les autres donc c'est.
C'était juste moins bien, quoi, que...
Sachant qu'il y avait Weber, en plus, en troisième. Donc, potentiellement, on savait qu'en course, voilà, potentiellement, voilà, il aurait une troisième place. Et donc, première ligne McLaren. McLaren qui fait quand même une très belle fin de saison.
Mais qui fait globalement une belle saison. Enfin, ils ont sans doute la meilleure voiture de la saison.
Ils ont la plus, ils ont la plus rapide, mais
La plus fine. Je pense que c'est ça qui a été le piège. C'est qu'ils avaient intrinsèquement la meilleure voiture sur toute la saison. Mais la plus difficile à régler et que ça leur a provoqué par moments des creux. Où ils ont fait des résultats qui étaient pas bons et puis en plus des erreurs, la fiabilité qui était pas au rendez-vous, qui a pourri leur saison.
Donc Button deuxième place et Lewis Hamilton qui fait une dernière pole pour McLaren.
Et c'est lui qui fait le plus de pole cette saison, 7 je crois.
Alors au niveau de la grille, donc Maldonado a été rétrogradé de 10 places pour non respect d'un contrôle, hein, donc il devait aller à la pesée, il a pas vu le gars de la FIA, il est passé tout droit, donc en fait c'était,
il a été rétrogradé
parce que c'était sa troisième réprimande.
Voilà, il a eu une réprimande pour ça, mais cette réprimande a été automatiquement convertie parce que le règlement prévoit qu'au bout de 3 réprimandes, alors ça c'est du coup voilà un point de règlement qu'on ne connaissait pas, qu'on demande depuis des mois en disant à un moment donné faut que les réprimandes elles soient sanctionnées, et là on se découvre, enfin, les réprimandes, elles sont sanctionnées.
Ouais,
c'est bien de l'apprendre.
Au Brésil. Hein.
La FIA, ils font quelque chose. Mais voilà, au bout de 3 réprimandes dans la saison, vous êtes sanctionné de 10 places. Bon, bah là, c'est tombé.
Ce qui est drôle quand même, c'est de se dire que Maldonado n'a que sa 3e réprimande qu'au Brésil.
Oui, mais c'est parce qu'en fait, lui, généralement, il fait des têtes, c'est pas que des réprimandes.
Et De La Rosa, donc 24e, qui a été rétrogradé de 5 places pour changement de boîte de vitesse. Pour ce que ça change, mais voilà, fallait le dire. C'était donc la 26e pole pour Lewis, donc sa 26e pour McLaren, la 155e McLaren et la 91e pour Mercedes, à une moyenne de 214,088 km/h. Et il ne pleuvait pas samedi.
Non, ça m'a déçu d'ailleurs.
Oui, parce que quand même, une semaine avant, on prévoyait quand même des orages le samedi et de la pluie le dimanche. Finalement, il a fait beau vendredi, samedi, ça va, il a pas plu. Dimanche, quelques heures de la course, c'était nuageux, mais il va peut-être pas pleuvoir, oui, il va pleuvoir, mais juste après la course, et finalement, on a été gâtés.
Mais c'est Météo France qui fait toujours les prévisions météo.
Mais, et normalement, c'est la même pour toutes les équipes.
C'était le bordel, ce week-end-là. Mais Météo France, à un moment donné, t'avais des écrans, ils disaient, bon, il va plus pleuvoir jusqu'à la fin de la course. Ça tourne autour, mais c'est stationnaire.
30 secondes et douche.
Et là, voilà. Non mais le pire, c'est que après, quoi, je sais pas, 10 minutes après, t'avais un autre écran, il disait bon, alors on va y avoir la plus fine pendant 5 minutes. Après, ça va partir. Et après, 10 minutes après, t'avais une autre prévision contradictoire. Donc tu disais voilà, vraiment, là pour le coup, c'est le côté incertain de la météo à Interlagos, c'est qu'il y a finalement aucune prévision à faire à Interlagos.
Comme l'a dit,
voilà, la pluie, c'est
comme l'a dit un commentaire justement, je crois sur l'article sur les stratégies. Voilà, on n'aurait pas aimé être à la place du stratège, parce qu'il y a toujours un stratège dans les équipes. Le gars qui a fait les stratégies, notamment de pneus, pour ce week-end, et ils ont dû s'arracher les cheveux.
À un moment, le mec, il a dû péter un plomb chez Red Bull. Hein. Il a dit, bon, allez, il pleuvra plus, vas-y, on tente. Bon, Sébastien, reviens, je me suis planté.
Sauf celui... Voilà.
Mais bon, finalement, rien ne vaut le feeling du pilote, quoi.
Ah, mais bon, sauf chez
ton morceau où ils étaient un peu alcooliques, mais on y reviendra.
Ah, moi. Bah, ce qui est bien, c'est qu'ils ont monté tous les pneus petits Toro Rosso. D'ailleurs, alors, je tiens à rassurer les gens qui ont vu le graphique des stratégies. Non, je ne me suis pas pris pour Monet. Hein. Ce sont bien des stratégies. Il n'y a rien d'impressionniste dans ce tableau.
Il y a plein de couleurs partout. Mais c'est impressionnant, tu vois. Button, quand tu vois Button et Hülkenberg qui ont fait 50 tours avec des pneus slick. Ah ouais.
Quand même. Moi j'aime entendre Button qui dit bon les gars on continue comme ça quoi. Le mec qui donne vraiment son avis, qui subit pas quoi.
Et donc on va passer à la course et au top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Et Dino, pour la dernière fois de la saison, peux-tu nous dire quels sont les pilotes qui ne sont pas dans le top 10 du SAV cette semaine?
En dernière position, 24e, il ne marquera pas de points. Et je dois dire, je suis déçu de votre part, chers téléspectateurs. Je me vois déjà sur Canal, je dis. Chers auditeurs, je sais qu'Artiqueillant, c'était peut-être son dernier Grand Prix. Bah, voilà, ça méritait peut-être 350 points. Ensuite, 23e, Timo Glock, 4 points. 22e, De La Rosa, 5 points. 21e, Daniel Ricciardo, 13 points. 20e, Heikki Kovalainen, 23 points. Là, ça se finit en 3 depuis tout à l'heure, hein. 19e, Senna, 33 points. Et je vous fais deviner, 18e, Paul Di Resta. 41 points. Maldonado, 42 points, 17e. L'homme invisible. D'ailleurs, je ne dirai pas son nom, tellement son nom est invisible. 16e, 48 points. 15e, Pérez, 56 points. 14e.
Du calme.
14e avec 137 points. Je te laisse deviner qui c'est Gaëtan. David Key, 14e avec 137 points.
J'imagine que c'est un Français, je dirais Grosjean.
Eh ben oui, c'est Grosjean. Grosjean, il a fait un truc ce week-end. Oui.
Il s'est pris un mur à 9G.
Et donc 137 points pour Grosjean, 14e. 13e, Petrov, 167 points. 12e, Charles Pic, 310 points. Et 11e, Kamui Kobayashi, 374 points. À noter que le vainqueur, et attention, il y a des surprises.
Il y a des surprises.
A marqué un total de 2395 points.
Et il faut avouer, donc, c'est un top 10 étonnant, mais surtout un top 10 très dense. Mais vraiment, hein.
Oui.
Hein, avec, on va dire, il y a un top 6, il est monstrueux le top 6 cette semaine.
Moi, j'ai pris du plaisir à faire ce top 10. Pour une fois, j'ai trouvé naturellement les 10, quoi.
Ah, ça va, parce que franchement, il y en a beaucoup d'ailleurs qui l'ont dit, c'était compliqué, parce qu'il y a tellement de choses dimanche et tellement de pilotes.
Oui, là. D'ailleurs, comme on parle du top 10, on a juste une petite pensée pour nos auditeurs qui auraient prévu de voter mardi, parce que la date initiale c'était mardi 19h et voilà, on a été contraint d'avancer l'émission pour des raisons extérieures et donc voilà, on s'excuse si vous n'avez pas eu le temps de voter pour cette émission-là. On a essayé de prévenir sur tous les réseaux sociaux et compagnie que c'était finalement ce soir qu'on enregistrait, mais donc voilà, si vous n'avez pas pu voter, on s'excuse.
Alors on notera que donc Gaëtan, tu as donné 4 points à Kobayashi.
Tout simplement parce que c'est sa dernière course apparemment. Enfin moi j'étais pas au courant qu'il avait plus du tout de baquet. Mais voilà quoi, juste parce que j'ai trouvé que ça allait quoi, que il a essayé de se montrer, il a bien tenu face à Vettel, il s'est pas laissé écraser trop tant que ça quoi je trouve. Du coup voilà.
Il s'est un peu lâché sur Schumacher.
Aussi.
Il s'est dit je vais tenter le Kobayashi. Mais est-ce qu'il pleut au fait? on va essayer, on verra. Et là, quand il a vu le freinage, il s'est dit ah merde, il pleut.
Ah, mais c'est
je suis parti de 3 km trop loin.
J'adore la fille qui fait ah non, hein, c'est pas possible, là, attaquer de si loin, c'est pas possible. Oui, bah ça passe, c'est un génie, ça passe pas, voilà.
Oui, mais ça peut pas
passer. Il était loin quand même, il était vachement loin.
Moi, j'étais tout cœur avec lui, je me suis dit oh putain. Et non.
Alors tu as donné un point commun l'un à Pic, l'autre à Petrov. Moi j'ai donné un point à Petrov parce que voilà, il avait réussi à quand même à grappiller cette 10e place à Caterham.
Moi je lui ai donné 4 points.
Pourquoi j'ai mis Pic Petrov sur la même ligne en sachant que sur le site j'ai validé avec Petrov, ouais, parce que je me demande si Pic, vu qu'il va pas chez Caterham prochaine,
qui circule
ne se pose pas la question.
On va avoir une affaire, l'affaire du dépassement sous safety car.
Non mais attendez, parce que il y a un type qui va peut-être être super content de ça, c'est Heikki, parce que c'est peut-être ça qui va sauver son baquet chez Caterham.
Mine de rien, il y a quand même 10 millions à la clé, et donc avec ces 10 millions, on peut s'offrir des choses, voilà. Genre un vrai pilote.
Voilà. Ah mais moi, je me mets à la place de Pic, hein, je réfléchis, tu te dis il reste en tour, le mec il est derrière moi, il venait de se faire passer par un pilote plus rapide, c'est ça, de se faire prendre un tour.
Oui.
Et je vois l'autre derrière, si il me passe à la régulière, je me fais ah tiens cool. cool du fric en plus, s'il me passe pas la régulière, ben je me dis bah voilà encore du fric en plus. Ouais, voilà. Donc oui. Il est plus gagnant en pic de toute façon.
Il le dira jamais, oui. mais oui. Je pense. On va pas dire qu'il l'a laissé passer voilà. Parce qu'il y a quand même la manœuvre de Petrov oui. Est opportuniste et tout et voilà. Mais il n'y a pas nécessairement au frère une grande résistance.
Voilà. C'est ça, voilà. Il a fait.
De la même manière qu'on dira pas que Schumacher a laissé passer Vettel, mais il lui a pas non plus fermé la porte.
Oui. C'est comme ça m'a fait marrer un moment. Oui, il y a Vettel, et puis t'as Toro Rosso qui revient. Il fait, oui, il y a la Toro Rosso qui revient. Non, mais Toro Rosso.
Non, la Toro Rosso.
Toro Rosso, hein. Toro Rosso, Red Bull, voilà. Hein.
Le Toro Rouge. Ah, essaie de traduire en anglais et en italien, tu vas voir, tu vas trouver.
Pourquoi il ne doublera jamais Vettel?
Par contre, j'ai...
Oui, ça, on le dit jamais, parce qu'on n'arrête pas de parler de ouais. Felipe Massa qui est coéquipier. J'aimerais quand même qu'on regarde le nombre de fois cette saison, parce qu'on le sait très bien, on se rappelle d'ailleurs que c'est en partie ce qui a coûté la place de Rémy Alguersuari chez Toro Rosso l'année dernière. Combien de fois cette saison, les Toro Rosso n'ont offert aucune résistance ouais. Au Red Bull.
Là, on peut dire que ce week-end, Vettel, il a eu 4 coéquipiers.
Ah, oui. mais j'étais déçu que Schumacher voilà, je me suis dit justement, je me suis dit hier Vettel remonte mais ah ça y est, il y a Schumacher devant lui, il va bien défendre, on va voir.
Ah non, moi j'ai trouvé ça beau moi.
Mais vous inquiétez pas, on pourra revenir sur.
Ça m'a ému. C'est ça, pour moi c'est ce qui sauve, tu vois, c'est l'image qui sauve le retour de Michael Schumacher. Non mais voilà, c'est le premier pilote qui le félicite, enfin il se retrouve au pied quand Vettel descend sa voiture et puis ben, voilà cette image vue de caméra sur je sais pas c'est genre, en hauteur où tu vois bon Schumacher qui le laisse passer sans le laisser passer, voilà, c'est un dépassement symbolique quoi, tu dis voilà, il y a la transmission de pouvoir et au moins c'est ce qu'il leur a laissé Schumacher, parce que c'est mine de rien Vettel, les trois titres qu'il a là, on peut quand même rappeler que c'est aussi en partie grâce à Schumacher. Si on a autant d'Allemands aujourd'hui, c'est parce que Schumacher a quand même aidé à vraiment poser les bases en Allemagne d'une vraie culture de la F1.
C'est sûr que c'est pas Frenzel.
C'était pas forcément le cas avant, quoi.
Sinon, Dino, est-ce que tu as d'autres pilotes qui étaient hors du top 10?
Moi, j'ai mis Pic. Et puis, je crois que c'est tout. Non, j'ai donné des points à Grosjean. J'ai donné 25 points.
Quoi?
Non, je déconne. Oh, je
connais, alors, on sait que t'en es
non,
capable.
Non, j'ai mis des points à Pic parce qu'au-delà du dépassement de dernière minute, il fait une super course sur un circuit qu'il ne connaît
oui,
pas.
Oui, c'est vrai.
Voilà, il fait une super course et juste bravo, quoi. Voilà.
Et donc, dans le top 10, à la 10e place, il a marqué 476 points. Déjà, une 10e place à 476 points, c'est sévère, quoi. Si Jean-Éric Vergne, moi, je lui ai donné 4 points, parce que, franchement, arriver à rentrer dans les points quand ton équipe a fumé du hashish, c'est juste merveilleux. Mais
c'est vrai que
qu'est-ce qui est passé dans la tête de l'équipe lors des changements de pneus?
Ils étaient
tout le temps à contre-temps.
Bah, c'est vrai que moi, je l'ai pas mis dans mon top 10, j'y ai pas pensé sur le coup, mais c'est vrai qu'en se rappelant tous les aérocentres qu'il a fait, c'est vrai que, ouais. Mais est-ce que tous ces aérocentres c'était pas non plus pour tester l'adhérence de la piste, pour les Red Bull, justement? Moi, j'ai pensé à ça directement, personnellement.
Ils ont Weber pour
peut-être.
Ça.
Mais après c'est peut-être aussi parce que ils ont senti qu'il y avait aussi des risques à prendre et je crois hein, j'ai pas le graphique en mémoire mais je crois quand même qu'à chaque fois qu'ils sont rentrés au stand c'est pour tenter autre chose que ce qu'ils avaient. Là on en a vu parfois qu'ils rentraient au stand pour remettre des pneus slick, genre Vettel en fin de course, il rentre au stand, il remet des pneus slick. Non mais attends, c'est la pluie est mouillée, c'est pas remettre des pneus slick, c'est pas possible. Là au moins à chaque fois ils sont rentrés au stand pour tenter un truc. Ils ont essayé à chaque fois de profiter d'une aggravation des conditions et ils ont été finalement un peu victime de la météo. S'ils avaient fait les bons choix, ils auraient, voilà, si la météo s'aggravait pas, ils auraient pas dû repasser au stand et compagnie. Donc c'est toujours pareil quand tu prends des paris, c'est soit ça gagne, soit ça gagne pas.
Clairement.
Et là sur les deux voitures, ça a pas gagné quoi. Et d'ailleurs Ricciardo l'a dit après la course, il a dit c'était une course, on pouvait faire des points, on pouvait faire de bonnes places à condition qu'on fasse moins d'arrêts.
T'as pas donné de points à Vergne, Dino.
C'est mon monsieur, il est bon.
D'accord. N'oublie pas de le dire, hein, à chaque fois quand je donne les points.
Voilà. Ouais. Voilà. Au début, il était 10e, et puis j'ai eu, bon, quand même, à un moment donné, je me suis dit, non, il y a quand même un truc que j'ai à dire sur le 10e de mon classement. Et donc voilà, faut que je le mette, mais voilà. J'ai rien à dire de spécial sur Verne.
Dans ce cas, 9e place, 564 points.
Ah, mon 10e.
Ah, que dire. Visiblement, parcourir 100% des kilomètres cette saison ne lui suffisait pas.
Mon 9e.
C'est dit, faisons 101, 102%, hein. C'est Kimi Raikkonen. Moi aussi, je l'ai mis 9e.
Ah, c'est pas mon 9e.
Ah, moi, c'était mon 9e.
C'est mon 7e.
C'est ton
mais c'est, alors moi, c'est mon septième, parce que juste, il m'a offert certainement mon plus gros fou rire de la
saison. Ah, mais tout le monde, hein, c'est dingue. Le pire, tu vois, c'est que, en plus, il a fallu que ça soit lui. Je dis, peut-être qu'un autre pilote, on se serait marré, sauf, enfin, disons, si ça avait été un pilote qui joue la course ou le titre, on se serait pas marré. Enfin, si ça avait été un autre, on se serait marré. Mais là, en plus, il a fallu que ça soit Kimi, quoi.
Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est surtout quand tu vois les commentaires après des mecs de TF1, c'est que, comme tu dis, ça aurait été un autre, on se serait marré. Là, c'est pas Kimi, forcément. On trouve ça génial. Voilà. Mais il y a rien de génial dans ce qu'il fait. Il y a rien de génial, c'est juste très con. Et là, quand t'as derrière Moncé qui dit, oh, il y a que Kimi pour faire ça. Mais non, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est juste le mec, il a été futé parce que c'est quand même la preuve.
Il a eu cette superbe explication.
Oui, qu'il était déjà passé
en 2001, c'était pas fermé. 2001.
Et que là, depuis, il avait fermé la barrière.
Il a dit que l'an prochain, il regarderait si c'est fermé ou pas.
Oui. Mais c'est quand même la preuve que Kimi Räikkönen n'est pas un mec des années 2000.
Ah bah oui.
Là, il emprunte l'ancienne portion du circuit. C'est quand même un mec qui est des années 70. Il y a que lui pour connaître cette portion.
C'est incroyable. Il sort. Ok, il va, surtout là, il y a beaucoup de voitures qui sortent. Oh, il commence à passer dans l'échappatoire, on se dit, ah merde, il y a peut-être un souci, peut-être que machin. Et il commence à remonter. Il remonte. Puis il y a du délai, quoi. Il y a pas 2 minutes, mais il y a du délai. Et tu le vois remonter, puis d'un coup, il freine. Mais pourquoi?
Moi, j'adorais les commentaires, justement. Bon, je prends par là. Ah non, c'est par là. Bon, bah, je vais faire demi-tour. Et les petits commentaires comme ça étaient, t'avais l'impression qu'ils se disaient ça vraiment. Bon, bah, c'est pas par là.
Très, très bon. Parce que.
Mais moi, surtout, ce qui m'a tué, c'est quand le mec, il ressort et tu dis, bon, il a fait de conneries. Bon, il va ressortir proprement. Mais non, le mec, il ressort comme un sagouin. Hop, je me fais pas chier, je prends l'herbe. Voilà, je fais du rallye et compagnie. Voilà, moi, je me suis éclaté devant ce moment-là. Et il y a quand même un moment qui fait que moi, je l'ai mis 7e. Oui. C'est la bagarre avec Schumacher que j'ai trouvé.
C'est splendide. C'est le remake de 2006.
Oui, bah oui.
Endroit, c'est le même petit dépassement. Et jusque là, il y a de la pluie en plus et que les couleurs sont pas pareilles. C'est le même dépassement.
Mais la course de Schumacher, c'est le remake de 2006. Il commence la course, il a une crevaison. Derrière, il fait une remontée et compagnie. Il finit dans les points. Il fait des dépassements à peu près similaires de ce qu'il a fait. Voilà. Donc c'était assez frappant ce week-end de voir la course de Schumacher.
Mais j'ai trouvé, je pense qu'on peut pas avoir, ça que avec eux deux, quoi. Comme disait, je crois, Weber avec Alonso dans le Radillon, quoi. Mmh, là, c'est la même chose. S'ils sont tous les deux, c'est des grands champions tous les deux, ils sont tous les deux hargneux, mais ils se respectent. Ils sont hargneux, ils tiennent leur position, mais ils se respectent, quoi. Ils savent très bien que leur monoplace fait tant et ils ont ce feeling, quoi. T'as l'impression que la monoplace pour eux c'est une extension de leur corps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup ils savent qu'à 2 cm près, ouais, il reste 2 cm, c'est de la marche, c'est bon, on se touche pas, quoi.
Et c'est ce que disaient les commentateurs, je crois que c'est Jacques Lafitte qui disait, tu vois, quand tu veux pas te toucher, tu touches pas.
8e place, messieurs. 567, donc ça s'est joué à rien, 67 points. Personnellement, je lui ai pas donné de points, de même que Gaëtan, c'est Marc Weber.
Ah, c'est mon 10e.
Ah.
J'ai mis un point juste parce que très élégant. Il avait dit au début, oh non, je ferai ma course et compagnie.
Équipé modèle. Hein.
Vraiment très grande classe sur le dépassement à 3 là avec Kobayashi, je crois, et Vettel.
Ah oui, il prend le large.
Il est allé au large. voilà, c'est ce que t'attends d'un coéquipier quand t'es dans cette situation-là, et c'est surtout quand tu connais l'histoire entre les deux hommes, qui a pas toujours été facile. Quand tu sais que Weber s'est toujours plaint de son statut chez Red Bull, même s'il est content d'y être, mais il s'est toujours plaint de son statut chez Red Bull. Tu dis, voilà, la grande classe, et surtout la grande classe aussi parce qu'il a dit derrière. Il a quand même dit derrière que pour lui, Vettel était maintenant quelqu'un de spécial, qui rentrait dans le club où il a dit c'est un club de 1. Il est dans le club des triples champions du monde et compagnie, mais il est dans le club des plus précoces. Donc il est dans un club de 1. Pour le moment, il est tout seul dans ce club. Mais voilà, donc c'est du Weber qu'on aime bien.
Même s'il y a eu mieux en équipe et modèle cette semaine.
Oui. Non, et puis il fait une course qui est quand même catastrophique. Enfin, le départ est catastrophique.
Il fait un départ, là, Weber. C'est-à-dire, je me rappelle, il dit, oui, Vettel, il part bien ou pas? Bah écoute, il part comme Weber, donc ça veut dire qu'il fait un départ de merde.
Et derrière, il fait un début de course relativement propre, et puis voilà, on sait pas comment ça se passe. La course de Vettel se complique, et la sienne se complique juste derrière. Donc voilà, mais non, voilà, moi j'ai trouvé une. C'est surtout pour le geste, quoi, voilà.
Bah le geste, voilà, j'ai trouvé moi que je l'ai pas mis parce que j'ai trouvé, ouais, ça m'a pas marqué tant que ça, quoi, son geste. Oui, c'est vrai que maintenant que je me rappelle, lui, le fait de s'écarter comme ça, oui, c'était sympa. Mais après tout le reste, on va dire, il a pas tellement aidé Vettel, que ça, quoi.
Mais en plus,
c'est la course qui fait ça, quoi. Mais
Mais en plus, le geste, c'est à la fois un geste altruiste, parce que c'est, voilà, je vais pas me cartonner avec mon coéquipier si jamais il a un problème, mais c'est en plus un geste d'intelligence de course. Voilà, je suis dans une situation à 3, je vais m'écarter un peu, je vais mettre même de la marge de sécurité, je fais bien attention à ce qu'il y a autour de moi. Voilà, il y a cette intelligence de course, ce degré de réflexe, qui est aidé par le fait que c'est ton coéquipier qui est à côté. Donc voilà, là, pour le coup, t'as vraiment rien à t'accrocher pour...
Ah, bien sûr.
On va passer à la 7e place.
Oh, la 7e place, Cindy.
Oui, bah oui, la 7e place.
C'est un chiffre intéressant, 7e.
Oui, ça tombe bien.
Oui, ça va lui faire plaisir.
Oui, et ça tombe bien parce qu'il a eu 730 points.
Oh.
Oui.
Et c'est bien parce que moi et Gaëtan, on l'a tous les deux mis 7e.
Ah.
Oh merde, j'ai mis 6e.
Ah, bah, oh. Il a gagné 7 titres, pas 6.
Aussi, ouais, j'allais dire 7e champion.
C'est chaud.
Et il a commencé 14e.
C'est vrai.
2x7.
C'était sa dernière course.
C'était pas sa meilleure.
C'était pas sa pire.
En même temps, c'était pas non plus ses 3 meilleures saisons.
Oui, oui, non mais ça c'est, oui, ça c'est bien connu ça. Non, que dire.
Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils avaient dit qu'ils feraient un truc spécial. Alors, à part le fait qu'il a fait son tour d'honneur avec un joli drapeau, que c'était pas le drapeau à damier d'ailleurs. Hein. C'était un drapeau avec des damiers avec marqué Thank You, mais c'était pas.
Oui, mais il a quand même fait le tour d'honneur avec sa monoplace.
C'est vrai.
Ou là, c'est quand même spécial parce que ça veut dire que bon, quand même, on a dû autoriser sans doute qu'ils mettent du carburant nécessaire avec des pneus spécifiques. Donc, on a quand même fait on a un petit peu détourné quand même la réglementation pour lui permettre de faire ce tour avec sa monoplace. À moins que c'était peut-être une autre monoplace qui était apportée par Mercedes.
Bien sûr.
Bah après. Mais comme ça, Mercedes, ils se sont dit tiens, allez, dans ta valise.
Et puis pendant le tour, ils ont fait plein de tests sur un tour, tu vois.
Pour l'année prochaine. Ouais, on va mettre un drapeau l'année prochaine. Tu vas voir, ça va être super aérodynamique. On va mettre une voile sur la voiture, ça va nous faire aller plus vite. Méfiez-vous les gars, des trucs à voile sont pas forcément très fiables.
Ouais.
Surtout quand il y a des débris.
Après ça reste quand même le plus grand champion de la Formule 1, quoi. Donc 7 titres, je veux dire, il peut se permettre quand même des écarts, je trouve. Hein.
Ouais, je suis pas forcément d'accord sur le fait que champion non plus.
Oui, non, mais
dans le sens, c'est quand même pour moi c'est. Il n'y aurait pas eu Schumacher, je pense pas que enfin personnellement hein, dans mon histoire, je pense pas que mon père mon père s'est intéressé vraiment à la Formule 1 grâce à Schumacher. Du coup,
Ah, ton père lui, il aime les Allemands alors.
Ah oui. Bon, non, mon père aime Schumacher mais dire qu'il aime les Allemands, je devrais aller lui poser la question.
Et ta mère est au courant?
Je crois pas. Hier il a parlé de Keke Rosberg et la moustache mais
voilà, ton père a des goûts bizarres.
Ah mais il a une moustache comme Keke Rosberg hein.
Oh. Ah ouais, c'est ce qui nous inquiète. On salue ton papa s'il nous écoute.
Ah, ouais, je lui filerai l'émission. Je lui en parle souvent, tu vois, il a décroché un peu de la F1. Bah, depuis que Schumacher est revenu et qu'il fait rien, quoi.
Non, mais notre pouvoir à nous, c'est qu'on raccroche les gens à la F1. Oui.
Bon, pour le côté Schumacher, là, on pourra rien faire, hein, parce que là, bon, c'est son deuxième départ. A priori, c'est le bon.
On veut pas forcément vous dire, mais on est à la recherche d'un nouveau chroniqueur et on est en discussion. Mais on vous promet rien. Mais il y a des discussions.
Ça m'a fait un peu de la peine, tu vois, hier, j'entends mon père qui est à côté de moi qui me fait « Mais pourquoi il est revenu ?»« Mais pourquoi il est revenu ?» Je sais pas, tu pars une fois, reviens pas. Si c'est pour faire moins bien, reviens pas. Puis j'étais concentré sur la course, j'ai pas répondu, mais voilà quoi. Maintenant quand j'y repense, ça me fait bizarre.
Mais moi je trouve que finalement, sa course était peut-être pas... Il a pas fini, c'est clair, sur la même note que 2006, où il se battait pour le titre, et il a fait une course magnifique, alors que ses espoirs de titre... Il pouvait être champion, mais ses espoirs de titre étaient ruinés dès le début de la course. Mais je trouve qu'il a fait une course week-end qui était une course... une course à la Schumacher, voilà. Il a eu des pépins, il a rien lâché, il a été fidèle à ce qu'il a dit tout le week-end. Je lâche rien, je lâche rien. Il a rien lâché. Et puis moi, je reste sur voilà sur cette image avec Vettel. Finalement, c'est ça son retour. Il est réussi aussi parce que pour moi, il est réussi parce que d'abord on l'a montré comme quelqu'un de, peut-être de plus humain. Donc ça le remet véritablement comme le grand champion qu'il est. Ça a peut-être donné un autre regard pour certaines personnes qui le médisaient un peu auparavant. Et puis aussi, c'est un moyen aussi pour toute une génération de pilotes qu'on n'a pas eu l'occasion de côtoyer ce grand champion, de se frotter à lui, et puis aussi à nous de tirer une leçon, quoi. C'est de comprendre que les champions, c'est il y a des périodes, voilà, et qu'à un moment donné, un champion, tout aussi grand qu'il peut être, bah voilà, il y a un homme derrière, et puis il y a une équipe derrière, et puis il y a une époque, il y a un âge et compagnie, et que et voilà, moi j'ai trouvé qu'en fait finalement c'était le côté un peu dramatique de la fin, un peu triste du clown qui se retire, la tête basse et compagnie, les épaules basses. Il y avait un côté, je sais pas, je trouve beau, à la fois triste mais beau, voilà. C'est ce que j'aimais dans son week-end, voilà. Je trouvais son week-end triste mais beau, voilà.
C'est joli ce que tu dis.
Je pense qu'il peut quand même être fier de ce qu'il a fait en 3 ans. Il a montré qu'il en avait encore sous le pied à 43 ans maintenant.
Bah, bientôt 44. Il y en a qui pourraient être ses fils et qui font moins bien. Ça.
Voilà, on verra si Alonso, Hamilton, Vettel et compagnie seront capables de faire ce qu'il a fait à 40 ans dans une voiture qu'il avait à ce moment-là.
Ouais. Moi, mon expérience personnelle, j'ai suivi la Formule 1 vraiment les courses, hein, avant je regardais que les départs, mais quand il a arrêté justement. Et mon père, c'était l'inverse. Quand il a arrêté, il a commencé à ne plus regarder. Mais parce que cette surdomination ne me faisait pas envie quand j'étais enfant. C'était, c'est bon, quoi.
Messieurs, on passe à la 6e place. Et là, à la 6e place, il y a un gap. Mais vraiment.
Ah oui,
c'est-à-dire que la 7e place, je vous rappelle, Schumacher, 730 points. La 6e place, 1000.
Vous rajoutez un 1 de.
Voilà, 1762. C'est-à-dire que dans un grand prix normal, 1762, tu finis premier. Cette semaine, non, tu finis 6e. Et c'est pas anodin, puisque c'est Sébastien Vettel qui finit 6e.
Oh, pourquoi pas. Sincèrement,
Vettel, je l'ai mis 2e, moi.
Mais moi, je l'ai mis 6e, mais pas, j'ai envie de dire, c'est pas qu'il est 6e, c'est qu'il y a tellement de monde à la 6e première place, c'est tellement dense, qu'au final, 6e. Mais j'ai eu énormément de mal. Hein.
C'est un peu ça, c'est-à-dire que moi, je l'ai mis 4e, parce qu'il y en a d'autres devant qui se sont distingués, qui se sont mieux classés, mais il fait une putain de course, quoi.
Je veux dire, il a tout. Enfin, moi, je l'ai mis 2e parce que, il a tout vu. Il a vraiment tout eu, quoi, le bonhomme. Hein.
C'est une synthèse de la saison de Lewis Hamilton.
Ah, oui.
Sur une course. Les problèmes au stand, l'accrochage,
C'est pas fair play, mais au départ, je me suis levé du canapé et j'espérais qu'il abandonnait, hein. Mais, le mec, il a un monoplace qui a un bon gros trou dedans. Et il repart et la remontée, le réalisateur n'a pas montré sa remontée, mais on voyait, il a gagné 2 places, 3 places, 4 places, il est aux avant-postes. Bah, en 2-3 tours, ça m'a choqué.
Et c'est là la différence, moi j'insiste vraiment la différence par rapport à Abu Dhabi, c'est là où moi il m'impressionne et où il m'a pas impressionné à Abu Dhabi, c'est que là il a intrinsèquement la même voiture que les autres, enfin il roule dans les mêmes conditions que les autres. Il doit faire avec les éléments, il a une voiture qui est un compromis déjà entre course et qualif, mais en plus entre pluie et sec, donc voilà, il est dans les mêmes conditions que les autres. Ce qui n'était pas le cas à Abu Dhabi où il avait une voiture taillée pour la course. Donc là vraiment c'est impressionnant parce que le mec il fait un arrêt de plus que ses principaux rivaux en tête de course. Il a un pépin, il perd des pièces, il a quand même été percuté au départ.
Ouais.
Pas un mais 2 impacts, puis des gros impacts. Donc voilà, déjà le fait qu'il reparte c'est un miracle en soi, et puis derrière la course, le fait d'attaquer
et compagnie, il a maintenu son niveau en plus, c'est ça qui est dingue.
Oui, voilà, le fait d'attaquer alors que sa pièce peut-être marche pas bien, enfin
Ah, moi c'est clairement ouais, c'est ouais comme tu dis, c'est là on a vu vraiment son talent et voilà quoi, c'est le talent quoi. Le talent et la remontée canon qui m'a fait et justement, j'ai pas compris pourquoi le réalisateur n'a pas montré ça quoi. Comme Abu Dhabi justement, ils arrêtaient pas de le montrer doublé etc. ben parce que peut-être qu'en tête de course, c'était un petit peu plus chiant quoi. Mais là en 3 ou 4 tours, il est remonté, il a rattrapé son retard quoi. C'est ça m'a choqué. J'étais bouche bée.
Là où j'ai eu un peu peur, c'est en effet c'est sur le troisième arrêt, qui est pas compréhensible. C'est qu'est-ce qui leur passe à la tête de...
Les pneus tendres.
Ouais, le troisième, pas. Voilà. Pour mettre juste 2-3 tours après, donc c'est vraiment une erreur de leur part. Hein. Voilà.
Je pense sincèrement qu'à ce moment-là, je pense qu'ils se disent c'est perdu. Faut qu'on tente un truc. Je pense qu'ils sont dans cette logique-là de se dire ils ont peut-être plus les repères et compagnie. Enfin, je sais pas. Ils disent faut qu'on tente un truc. On va mettre les tendres.
Et ça, parce que malgré le temps qu'il perd, parce que finalement ça lui fait un arrêt en plus, il arrive quand même à être dans les points et voilà, à sauver son titre.
Et surtout, moi, ce que j'ai aimé dans cette course, il y a plusieurs choses que j'ai aimé dans cette course. J'ai surtout aimé son sang-froid. Moi, c'est la qualité qui me fascine avec Sébastien Vettel et qui pour moi fait peut-être que son premier titre est sans doute le plus beau. C'est que c'est un mec assez bizarrement sous la pression. C'est un patron sous la pression. C'est-à-dire qu'on se rappelle en 2010, personne le voit champion parce qu'il a fait trop d'erreurs, il a trop de retard. Et là, il commence à enquiller victoire après victoire après victoire. Certes, il a la voiture, mais il enquille les victoires et compagnie et il se démonte pas. Il fait son truc de son côté et compagnie. Là, le mec, dès le départ, il voit sa course ruinée. Il pourrait déjanter derrière, il pourrait faire n'importe quoi. Déjà, il a le réflexe de se laisser couler pour pas surprendre les mecs et pas être au milieu de la piste. Il se laisse rouler. Alors, est-ce que c'est un réflexe ou est-ce que c'est est-ce que c'est un oubli? Je sais pas. Mais le mec se laisse rouler, il profite de la pente pour reculer un peu. Puis derrière, derrière, il se précipite pas. Il a pas fait faute pendant la course. Il a calculé et compagnie. Enfin voilà, c'est la maturité de Vettel. On la retrouve vraiment quand il est sous pression. Je pense que c'est un pilote qui est rarement meilleur que quand il est sous pression. Et c'est et ce qui m'a rassuré aussi ce week-end, c'est que je le revendique. Je voulais que ce soit Alonso qui soit champion. Je suis déçu qu'il soit pas champion. Je suis déçu que ce soit Sébastien qui soit Vettel qui soit champion. Hein, par conséquent. Mais finalement, je me dis au moins il a eu son titre en montrant qu'il était allé le chercher. Là finalement sur la dernière course, même si sur la fin de saison il est revenu en partie grâce à une bonne voiture et avec en face un Alonso qui était un peu pénalisé par une voiture qui plafonnait, là au moins je me dis voilà, au moins il a fini sa saison sur une course, je dirais pas référence mais presque, mais sur une course où il a dû aller chercher, il a dû y mettre l'huile de coude pour aller chercher son titre. Voilà, il a dû aller chercher son titre, il est allé le
même
chercher.
Même sous des drapeaux jaunes et oranges, parce que c'était pas exactement drapeau jaune, c'était jaune orange.
Voilà. Mais pour moi, c'est la course de référence de Vettel. Pour moi, hein, de mon souvenir, ce sera ça. Parce que tu dis que oui, c'est un patron sous la pression. Mais cette année, j'ai trouvé que non. Hein, Abu Dhabi, sa remontée où il pète un plomb, le fait que tout. Cette année, j'ai trouvé.
Oui,
qu'il
mais
était...
Abu Dhabi, ça compte pas vraiment parce que.
Ouais.
C'est quand je dis la pression, c'est vraiment quand il y a vraiment quelque chose de gros à la clé. Je pense que vraiment quand c'est décisif. Je pense que là c'est un patron. Par contre, c'est vrai que c'est un mec qui déteste perdre et donc et du coup quand il est dans une situation où il gagne pas, il s'énerve. Mais on l'a vu passer déjà que quand c'est décisif, le mec il s'est là, il fait pas de faute, il fait son boulot et tout et c'est une machine à tuer quoi. Voilà, c'est une machine de guerre.
Moi je m'attendais clairement à ce que il pète un plomb quoi là. Je me suis dit voilà, il partait quatrième, il est dernier du peloton, il s'est fait toucher, il a un trou béant dans la monoplace. Et le fait, ouais, c'est le fait qu'il a été le patron, enfin qu'il a tenu et que, ouais, je trouve ça. Mais même après, c'est une course référence, quoi. Comme tu dis, il a une voiture diminuée et pourtant il tient son niveau, comme disait Shinji. C'est bravo. Voilà, il y a pas d'autre mot, bravo. Il mérite son titre.
Et c'est Christian Horner qui a dit après la course, il a dit c'est pas difficile. Vous imaginez un truc, ça nous est arrivé. Et moi, j'adore cette phrase. Voilà, vous imaginez un truc, ça nous est arrivé.
tout le pire nous est arrivé.
Avec et c'est vrai qu'il l'image, il a avec l'image magique de Niue. Avec la photo, ça c'était génial.
Bah, il m'a saoulé sur ça. Bon, c'est bon, c'est un appareil photo, un agrandissement, une imprimante.
C'est tout, oui.
Voilà, il n'y a rien de miraculeux. C'est juste la première fois que tu le vois, parce que c'est la première fois que ça compte, mais voilà, je sais, en football américain, ils ont des photos du jeu en 5 secondes, elles sont imprimées sur le bord du terrain, et voilà, les mecs peuvent regarder les photos des stratégies, voilà, il n'y a rien de nouveau.
Mais aussi, c'est pas souvent qu'on a un trou béant dans une monoplace.
C'est vrai, aussi.
Je veux dire, ils vont pas faire une photo d'un pneu qui est en train de crever, parce qu'ils savent, mais il a crevé le pneu, ils vont pas te faire une photo, voilà, c'est bon. Ils ont resté quand même, quoi, je crois, 10 minutes là-dessus. Et aussi le réalisateur, quoi. En même temps, je les comprends un peu, je les ai un peu plus compris TF1 sur ce Grand Prix, c'est, ils choisissent pas les images, donc si le mec, il vous montre pendant 10 minutes le gars en train de regarder la photo, tu dis quoi?
Bah, faut que tu fasses 10 minutes.
Voilà, tu dis quoi, là? Bah, oh mon dieu, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça, bah, ouais. Mais bon.
Cinquième place, il a marqué 1942 points. Gaëtan et moi, on l'a tous les deux mis quatrième, c'est Felipe Massa.
Oh, c'est de l'arnaque.
Je suis déçu. Je suis déçu.
Moi, je l'ai mis troisième. C'est cinquième, c'est...
Ça, il vaut pas, il mérite au moins, le podium, j'ai failli le mettre dans le podium, mais, je le mets, ouais, voilà, mais il mérite pas la cinquième place.
Surtout que, bon, c'est vrai que c'est serré en tête, mais il y a quand même les deux premiers qui se distinguent, et après, il y a un groupe de la troisième à la cinquième place, ouais. Puis il y a le sixième. Donc voilà, il y a quand même à chaque fois quelques centaines de points. C'est vrai que, par contre, 3, 4, 5, c'est très très serré. Et là, retrouver Massa à ce moment-là, alors qu'il fait une course, c'est... Moi, j'ai eu l'impression, moi, j'étais fier de voir Massa, quoi. Je me dis, putain, c'est peut-être la course cette année où je me suis dit, voilà, ça c'est Massa, quoi. Il était sur un terrain où il se connaissait, il se sentait à l'aise, en famille.
Il était, ouais, il était super bon, équipier modèle, mais alors jusqu'au bout. Il y a ce départ. Parce que avant la course, tu dis, ouais, bon, l'idéal, limite, ça serait que Massa, il fasse un bon départ, puis, tu vois, il se fout derrière la Red Bull. Non, c'est ce que tu dis. Tu dis, ouais, puis il se met devant les Red Bull, comme ça, il gêne. Puis quand tu dis ça, tu dis, mais bon, c'est l'idéal, quoi, c'est pas ce qui va arriver.
Je dis, l'idéal, c'est que Massa cartonne, ouais. Vettel au départ.
Oui,
et d'ailleurs, il a dit à la presse, samedi, bon, c'est bon, arrêtez, c'est les mecs qui ont posé la question, tu vois, est-ce que vous allez foutre dehors? Mais non, mais arrêtez. Oui, je vais aider Alonso, mais voilà, il y a quand même des limites.
Mais le départ, on passe quand même devant les deux Red Bull. Magique.
Il a une histoire avec ce circuit. Enfin voilà, il est juste.
Et puis maintenant, dès qu'il est sur le podium, il pleure.
Mais s'il y a bien quelqu'un sur fanf1.com qui est un fervent défenseur de Massa, je pense que c'est moi, quoi. J'ai tout le temps monté mon bouclier pour le défendre. Je sais pas, parce que c'est un pilote. C'est vrai, je peux dire que je suis fan de ce pilote. Je suis fan, comme il y a quelqu'un qui savait quand t'as dit, Dino, que tu étais fan d'Alonso parce que tu étais fan de Ferrari. Voilà, c'est un peu ça. Alonso avant, oui, je l'appréciais sans plus, malgré que ce soit un grand pilote. Mais Massa, oui, le fait qu'il loupe le titre, qu'il soit champion du monde pendant 10 secondes, voilà, qu'il loupe le titre, le fait de son accident, le fait qu'il revienne, le fait que il doit s'écraser, il doit faire avec un coéquipier qui domine, je sais pas, tout ça font que pour moi il est spécial.
Mais Massa, il a un destin pour moi il mériterait qu'on fasse un film sur lui, quoi. C'est un destin à la Loda, quoi.
C'est ça. Tout le monde l'a enterré. Tout le monde, il ne reviendra pas en Formule 1. Ou même encore cette année, on essaie d'expliquer son, même moi le premier, c'est ses mauvais résultats par son accident. Et c'est quand lui-même a dit non, ce n'est pas ça. Si tous les spécialistes me disent que c'est pas ça et que je ne pense pas que c'est ça, alors non, ce n'est pas ça. Je vais pas bien, je vais m'y remettre. Et puis voilà, quoi. C'est ça. En fait, il a pas la carrure du mec à la Alonso qui est invincible. Et tu le vois aussi sur le podium, il chiale. Putain, mais il est humain. C'est un humain. Je sais pas. Je me sens proche de ce pilote et de toutes ses valeurs. Moi, j'aurais fait la même chose que lui. Je joue pas le titre. Je fais ce que je peux pour aider mon coéquipier, même si il faut casser le scellé de ma boîte de vitesse. Oui.
Et je pense surtout que c'est peut-être ça aussi qui était le déclic pour lui cette saison, c'est que d'un coup, il est passé dans une relation avec Alonso, qui était peut-être avant une relation de rivalité entre guillemets, enfin voilà, c'est mon coéquipier, faut que je le batte, faut que je fasse mes preuves. Peut-être un peu plus aujourd'hui une relation où il s'est un peu fait à son sort. Et d'ailleurs, quand tu lis ses déclarations ces derniers temps, enfin même là les déclarations après le Grand Prix où il dit toute son admiration qu'il a pour Alonso, je pense maintenant qu'il a acquis du respect pour Alonso et que oui, il est devenu coéquipier et que le fait d'assumer son rôle de coéquipier le fait revenir à son état de forme. Voilà, il est libéré en fait.
Il faut dire aussi qu'il peut dire merci à Alonso, parce que c'est sans doute grâce à l'appui d'Alonso qu'il sera dans une Ferrari l'an prochain.
Oui, Et là, moi, ce week-end, j'ai l'impression de revivre le Massa de 2008, quoi. Héroïque, voilà, on pleure sur le podium pour des raisons différentes, mais on pleure sur le podium. Voilà, c'est
assez. Comme tu dis, je pense que Alonso a été le seul sur la grille à voir que Massa était toujours un très bon pilote et avoir ses qualités, quoi. Et cet appui a fait que et ça lui a fait. En fait, Massa, à un moment, c'est comme tout dans la vie, on se bat tous pour la réussite. On se fixe des objectifs. Et au moment, je pense qu'il a réalisé que même s'il n'était pas champion du monde de Formule 1, ça l'empêchait pas d'être heureux, de s'éclater, d'être un très bon pilote, de faire des podiums. Il avait plus rien à prouver en fait. Il est en Formule 1, il est chez Ferrari. Il y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont été chez Ferrari, qui voilà quoi. Au final, je pense qu'il a accepté ça, qu'il a accepté tout ça.
C'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi qu'il est tellement bon au Brésil, quoi. C'est qu'il est dans un endroit qu'il connaît, il est dans un espèce de cocon et du coup, il est libéré. Et je pense que voilà, cette année, il a vraiment retrouvé sa place avec le soutien de Ferrari, parce que voilà, on a beaucoup dit que Ferrari voulait s'en débarrasser, mais ça, c'est une écurie de F1, c'est Ferrari, donc à un moment donné, ils sont aussi obligés de songer à leur intérêt. Mais quand même, malgré tout, ils l'ont soutenu quand même, ils ont essayé de l'aider et compagnie, plutôt que de, contrairement à ce qu'on a dit, de lui mettre la tête sous l'eau, parce que ils n'ont pas fait que ça cette semaine.
Clairement, mais ils auraient pu casser son contrat, mais comme ils voulaient, quoi. Si vraiment ils le désiraient. Après, ils étaient pas sûrs d'avoir quelqu'un d'autre de meilleur.
Au pire, ils le renouvelaient pas, hein.
Oui. Et au pire, ils le renouvelaient pas. Mais voilà. Mais bravo à Ferrari, bravo à Alonso et bravo à Massa, quoi. Cette équipe, je la soutiens parce que c'est mon équipe fétiche.
C'est bien.
Mais cette saison, on ne peut pas dire. Oui. Je m'attendais à ce qu'il fasse des gros enfoirés avec Massa, que Alonso ne le soutienne pas et que tandis que lui, comme tu dis, l'ont mis dans une dynamique positive. Et je trouve que je pense pas qu'il y a beaucoup d'écuries qui font ça, quoi.
Mais je pense aussi que c'est lui qui a trouvé sa place, et c'est aussi Alonso et Ferrari qui ont trouvé la place de Massa.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils savaient plus forcément quoi en faire, même Alonso savait peut-être pas quoi faire de Massa, et Alonso a compris cette année que c'était dans son intérêt d'avoir un coéquipier comme Massa, qui va pas lui faire de l'ombre, même si on voit que sur les derniers Grands Prix, il est capable de lui en faire, mais voilà, c'est pas le mec le plus menaçant de la Terre, mais en même temps que c'est un coéquipier qui peut être suffisamment solide quand il est vraiment en forme pour pouvoir prendre des points aux adversaires, ce qu'il a fait d'ailleurs sur cette fin de saison, parce qu'il a aussi contribué à la bonne fin de saison d'Alonso. Et Ferrari aussi a enfin retrouvé une place. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai d'ensemble de Ferrari, c'est que vraiment, même s'ils sont pas champions à la fin, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu une équipe se former cette saison. Voilà, se trouver des repères, se trouver des marques, se trouver le rôle de chacun et compagnie, et enfin se structurer. Et c'est ce qui me rend franchement très optimiste pour l'année prochaine.
Et aussi Massa, faut le rappeler, il a aidé Alonso, mais il a gardé la deuxième place constructeur chez Ferrari, quoi.
Oui.
Ouais. On a juste petite
bien voilà. Aidé par Hülkenberg.
Oui.
Oui.
Mais voilà quoi.
Quatrième place, il a marqué 1976. Hein, comme tu l'as dit, ça a été très serré. Je lui ai donné 10 points, Gaëtan 8. C'est Lewis Hamilton.
Ah merde, je l'ai oublié.
Ah. Et je te l'ai dit, il y a tellement de pilotes que forcément,
c'est pas grave.
On en oublie un. En même temps, il a pas fait
la course. Sincèrement, je l'ai oublié, mais c'est sans regret parce que j'ai pas grand-chose à dire sur sa course. Enfin,
belle course, enfin, course propre. Après, il s'accroche. Voilà quoi.
Moi,
je l'ai mis sixième. Je l'ai mis sixième parce que voilà, il a fait une très bonne course. Il me semble que c'est Button qui le dépasse. C'est pas lui qui dépasse Button. C'était assez propre, la passe d'armes, enfin, je sais plus c'était dans quel sens, mais les passes d'armes étaient jolies. Voilà, quoi. Et après, il est pas du tout, comment dire, il cause pas du tout l'accrochage. Donc,
c'est
voilà,
dommage, bah. Après, c'est vrai qu'il aurait aimé, je pense, voilà, dernier Grand Prix avec McLaren, offrir une victoire, ça aurait été beau. Et c'est vrai qu'après, quand on le voit, pouvoir dire bonjour à toute l'équipe, c'était sympa, quoi.
Ah oui.
Non, puis il a fait un bon week-end.
Oui.
On course. Okay. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur la course. C'est un peu le problème, c'est toujours pareil. C'est quand moi je fais les classements, faut toujours voir aussi par rapport à ce qui se fait autour. Et là, c'est vrai qu'il aurait mérité pour moi sa place dans les points. Maintenant, il y en a tellement qu'on fait des trucs ce week-end.
Parce que sur les deux tiers de la course, il y a quand même trois voitures qui étaient au-dessus de toutes les autres.
Ah, clairement.
Ouais.
Ah,
clairement. Il y a un moment où, je crois avant les ravitaillements, où tu vois que le quatrième, il est 44 secondes derrière le troisième. Oh là.
Mais ça vient de quoi ce décrochage de ces trois pilotes? Je veux dire
l'arrêt.
L'arrêt qui est avant les autres.
Bah, Button et Hülkenberg ne s'arrêtent pas, alors que les autres s'arrêtent. Et en fait, Hamilton, il s'arrête, mais comme il était dans le rythme des premiers, il s'arrête, mais il a quand même une bonne avance par rapport aux autres. Donc Alonso, je crois qu'il est quatrième à ce moment-là. Alonso Weber, peut-être. Non, Alonso Weber.
Ouais.
Donc voilà, il a déjà une avance par rapport aux autres, même s'il a un arrêt de plus. Donc
c'est surtout...
au moment où il y a l'autre arrêt de Button et compagnie, théoriquement, il doit se retrouver dans le peloton. Et d'ailleurs, il se retrouve dans le peloton.
Mais c'est surtout la Force India, la voiture du Hülkenberg qui m'a impressionné. Quoi. Je veux dire, elle a tenu le rythme quoi, face à des McLaren. C'est ça que j'ai trouvé étonnant, atypique. Parce que tu te dis...
La pluie?
Ah oui, c'est, ouais, voilà, oui, c'est la
et
pluie qui a fait,
Bah, la pluie et le talent, enfin, c'est lié. C'est que la pluie nivelle généralement le niveau des monoplaces. On a vu que, déjà, la Force India fonctionne très bien, depuis pas mal de grands prix, quand même. Et donc, la pluie nivelant le niveau des monoplaces, déjà, ça rend plus accessible. Et puis, clairement, là, on se posait un peu la question, je me posais la question, à Austin, de savoir si c'était vraiment lui qui apportait un plus à la Force India ou si c'était la Force India qui lui convenait mieux. Là, bon, là c'est clair que c'est lui qui a porté un plus à la voiture.
Ah oui,
quoi.
C'est ça.
Ce soir, ils sont contents chez Sauber. Hein.
Ah ouais, ils ont fait une... Ah ouais.
Ils vont être contents pendant un an, quoi.
C'est rien d'autre sur Hamilton, et on peut enchaîner sur Hülkenberg, hein, parce qu'il a fini troisième, 1987. Oh.
Moi, je l'ai mis premier.
Moi aussi, je l'ai mis premier.
Je l'ai mis premier parce que j'ai failli le mettre deuxième ou voire troisième en étant et je l'ai pas rabaissé parce que je me suis dit il y a pas de raison à le rabaisser. J'avais mis Pérez premier et voilà quoi. Il a sublimé la voiture et il a fait une course sa plus belle course je pense. Et voilà quoi, je vois pas, il y avait pas de raison qu'il ne soit pas premier dans mon top 10.
Après c'est dommage qu'il y ait eu cet accrochage. D'ailleurs je comprends la pénalité, mais je l'ai trouvé dur quand même parce que vu les circonstances de course.
C'est pris une pénalité? Putain, j'ai.
Oui, il s'est pris un drive-through parce qu'il a causé une collision éliminant un autre pilote.
C'est vrai que j'avais totalement oublié ça. J'étais tellement pris dans la course que je.
Si
je
voyais. Donc ça, c'est quand même l'application d'un règlement qui est strict et on se peut. Là, par contre, on peut vraiment se demander si la FIA a pas pris un peu cette sanction avec vocation un peu politique derrière, enfin peut-être
parce
pour un peu.
On se doute bien, franchement, Hülkenberg, il le fait vraiment pas exprès. On a tous vu les conditions de course telles qu'elles étaient. Bon, c'est vraiment triste pour Hamilton, beaucoup, voilà, parce que c'est vrai que bon, dès qu'on voit la voiture d'Hamilton, lui, il essaie de repartir. Nous, on a tous compris qu'il pourra jamais repartir, hein, vu la gueule de tout, les suspensions, le pneu et tout ça. Mais de là, lui mettre en plus une pénalité, voilà. Sachant que de toute façon, il est toujours un peu pénalisé.
Là, on est vraiment dans une pénalité systématique. C'est-à-dire qu'on cherche même plus à savoir si c'est un incident de course ou pas avant de, voilà. C'est un accrochage qui a abouti à une sanction. Le mec qui reste en piste, il est pénalisé. On cherche même pas à savoir s'il est responsable de l'accident. Là, oui, c'est lui qui part à la faute, mais est-ce que c'est, il part à la faute, entre guillemets, volontairement? Est-ce que c'est dû à une erreur? Il est peut-être tout simplement surpris par les conditions d'adhérence et compagnie. Enfin, c'est un incident de course.
Ça se voit qu'il est surpris.
Enfin, quand je me suis dit,
j'ai envie de dire, il y est strictement pour rien s'il fout Hamilton dehors. Donc voilà, il y a quand même eu palanqué d'accidents cette année où des mecs se sont retrouvés dehors. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas le cas de Pérez à Abu Dhabi, quoi. Pérez à Abu Dhabi, l'accident, il est évitable. Là, malheureusement, l'accident, il est difficilement évitable. Enfin, c'est un des virages les plus compliqués de la saison. Voilà, ils sont à 3, il pleut et compagnie. Enfin voilà, moi je comprends pas cette pénalité.
On va me dire qu'ils sont à 4, hein, parce qu'il y a la Marussia avant.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, c'est OK, il l'a perdu. C'est ça que je comprends pas avec la FIA. Je vais revenir sur un grand prix, je crois que c'est à Abu Dhabi justement, où tu as Hülkenberg se prend une pénalité tandis que il freine la voiture, on la voit qu'elle glisse et qu'elle percute Hamilton. Moi quand je me suis repassé en fait en faisant le top 10, j'ai essayé de me repasser les moments forts du grand prix. Mmh. Je me suis dit non, c'est pas, il l'a pas fait exprès,
en essayant d'éviter de se prendre la caterham en plus.
C'est ça. Et je me suis dit non, je peux pas prendre ça. C'est une boulette que voilà. On peut pas prendre en compte ça. Mais après, maintenant en repense en me disant qu'il y a une pénalité, je me rappelle. Alors, vous en avez pas parlé pendant ce SAV. C'est Weber qui sort de piste, je sais plus comment, à Abu Dhabi quand il y a eu le gros paquet là, oui. Et quand qui revient et qui passe mais devant Massa, et que Massa il dit dans sa déclaration, j'étais obligé de donner un coup de volant, sinon je rentre dedans. Oui. Et qu'il n'y ait même pas eu une sur le moment, personne n'en a parlé, même après Grand Prix, ça s'est passé outre, c'est passé comme rien, et j'ai pas compris pourquoi la FIA n'a même pas fait une investigation.
Quoi. Oui, mais il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de conséquence.
Mais il fait quand même une manœuvre, enfin, pour moi, enfin, la course de Massa, il prend quand même un coup, quoi. Il a pas, enfin.
Oui, mais dans le raisonnement de la FIA, c'est, ouais. Dans le raisonnement même global, c'est que s'il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de réparation à faire.
Pour moi,
il y a c'est un incident de course, voilà, il perd du temps, mais ouais. Tu peux pas non plus, sinon, dans ce cas-là, chaque truc, tu vas devoir mettre des pénalités parce que, voilà, il gêne un peu ou il freine ou voilà, c'est tant qu'il n'y a pas de conséquences. Je pense que c'est aussi un peu le problème de la FIA, c'est que voilà, c'est aujourd'hui maintenant ils sont dans une gestion cause, ils sont même plus cause conséquence, ils sont conséquence, voilà, il y a un abandon, bah faut que l'autre il soit pénalisé.
Moi j'aurais au moins investigué pour dire ouais c'est pas beau quoi, ok on lui met pas de pénalité.
Oui, mais là c'est pas possible d'investiguer parce que ça veut dire que dans ce cas-là le résultat de la fin de la course est provisoire.
Ouais. Ah non,
on se rappelle tous de 2007. Dans le 2007, sincèrement 2007, Raikkonen ne doit pas être champion parce qu'on détecte un problème descend sur des Williams et sur des BMW et que si elles sont éliminées, si elles sont disqualifiées sur tapis vert, c'est Hamilton qui devient champion parce qu'il gagne des places dans l'histoire et donc du coup il rentre dans les clous. Mais la FIA, ils peuvent pas tapis vert retirer et priver un pilote du titre qui a été acquis sur la piste. Donc ils donnent une pénalité financière mais ils ont pas donné de pénalité sportive alors que théoriquement les voitures auraient dû être exclues. Là c'est pareil, même si ça a pas forcément de conséquences, ils ne peuvent pas prendre le risque qu'à la fin le résultat soit provisoire et que derrière ils soient obligés peut-être de donner une pénalité à Hülkenberg et compagnie qui aurait un impact sur le championnat. C'est juste inimaginable.
En fait, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'était pour Hülkenberg, je comprends et je partage son avis sur la sanction et sur le fait que ça doit pas être provisoire, oui, mais je parle pour le cas où de Massa et Weber, j'aurais juste pour remarquer qu'il y avait eu un truc dangereux. C'était dangereux. Parce que c'était dangereux avant même de faire chier Massa en termes de que ça lui a fait perdre du temps, c'était dangereux. J'aurais mis sous investigation pour dire, écoute, on a vu ça quoi. Juste ça, même si
oui,
après il y a pas de.
Oui, mais la FIA, elle ne va investiguer que de deux manières. La première manière qu'elle va investiguer, c'est automatique en cas d'accident. En cas d'accident, elle va investiguer pour savoir les causes et savoir s'il y a des sanctions à prendre. Et la deuxième cas où elle va investiguer, c'est s'il y a une plainte d'une équipe. Là, il y a pas de conséquences dans la manœuvre de Weber sur Massa, il y a pas de conséquences. Donc du coup, la seule raison qui pourrait la faire investiguer, c'est qu'il y a une plainte de Ferrari. Il y a peut-être tout simplement pas eu de plainte de Ferrari parce que peut-être que les deux pilotes se sont expliqués après, qu'il y a eu des excuses.
Voilà, oui.
Et voilà, de la même manière que là sur le drapeau jaune, le fameux drapeau jaune pour huile, qu'en fait c'est le drapeau jaune-orange, où là on peut dépasser sous le drapeau jaune-orange, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a pas eu une réclamation derrière, alors qu'il y aurait pu en avoir, mais c'est juste.
Quand on y pense, c'est complètement con d'autoriser le dépassement alors qu'on dit aux gens attention, il y a une piste, la piste est glissante.
Oui.
On passe à la deuxième place, messieurs. Il a marqué 2203 points. Je l'ai mis deuxième. Gaëtan, tu ne l'as mis que cinquième. C'est Jenson Button.
Ah, tu fais partie de ces gens-là. Il y a eu une sorte de polémique, c'est vrai, faut dire sur le commentaire, sur l'article du top 10 du Brésil. Ouais, c'était, ah, non, mais Button, souvent, vous le sous-dotez, compagnie.
Ben, c'est, comment dire, après, ce que, pour moi, c'est comme Hamilton, il fait une meilleure, enfin, pour moi, je l'ai mis, il était au même niveau qu'Hamilton, mais il a fait une meilleure course qu'Hamilton, du coup, ben, il prend une place juste au-dessus, quoi. Mais après, tout ce qui est au-dessus, pour moi, dans mon top 10, c'est que vraiment, ça m'a surimpressionné. C'était plus qu'une victoire, enfin, il méritait plus qu'une victoire, ces gars-là. Il méritait la victoire et plus, quoi. Voilà. Mais Button, il a assuré, oui. Il a assuré, et il est très bon grand prix, connaissance des pneus parfaite, pas d'erreur de pilotage, bravo.
Ah bah Button, des slicks sous la pluie, même pas peur.
Voilà.
Non, et puis c'est aussi naturel qu'il soit un peu sous-noté parce que c'est ça. Faut quand même tenir compte que ce top 10, il se fait quand même dans un contexte d'une course décisive pour le championnat. En Formule 1, si on réfléchit aux championnats aux courses qui ont été décisives, très rarement on se souvient de qui a gagné le Grand Prix. Enfin, c'est secondaire. Ah, oui. C'est secondaire. C'est vampirisé par la lutte pour le titre. Mais les courses décisives, dans n'importe quel championnat, enfin si vous regardez la NASCAR, c'est le plus grand anonyme de la dernière course, c'est le vainqueur.
On a les yeux rivés sur les autres, quoi, c'est normal. Hein.
Là cette année, c'est Jeff Gordon.
C'est Jeff Gordon en plus, c'est pas n'importe
qui gagne. Et bon, voilà, c'est qui on regarde, qui fait des donuts et compagnie, c'est le champion, c'est Brad Keselowski. C'est on s'en fout de Jeff Gordon, il a une petite cérémonie, mais on fait ça en catimini. Donc voilà, c'est toujours un peu le paradoxe de ces Grand Prix, donc c'est un peu compréhensible sur cette course-là que Button, pour certains, était un peu mis en retrait.
Brésil, c'est quand même dimanche, on a quand même eu ce truc incroyable où t'as quand même les trois types qui attendent leur podium, qui attendent, mais qui attendent pas le protocole, non, qui attendent que tous les photographes en bas, que voilà, que tout le monde ait fêté le truc avec Vettel pour faire eux leur podium. Je te jure, ils attendaient. Hein.
C'est compréhensible. Je n'aurais pas compris que Vettel serait monté sur le podium en même temps qu'eux. Quand à un moment il y avait les commentateurs qui disaient il dirige le podium, ça m'aurait gêné.
Ça s'est jamais fait
et ça m'aurait gêné. Mais après j'ai compris totalement que voilà quoi, il est champion du monde, le plus jeune triple champion de l'histoire. Si le mec en sortant de la voiture, il attend, il reste stoïque, il attend les hymnes et tout, et après il pète un plomb. C'est pas.
Il a failli se faire agresser par 40 photographes.
D'ailleurs, ayons une pensée pour l'agent de la FIA qui a quand même.
Il est gentil normalement. Hein. Gentil, hein. Ils ont dit son nom, je me rappelle plus, mais ils ont dit son nom. Il est gentil, hein. Oh, finesse.
Mais c'est vrai que ça, c'est peut-être un truc que la F1 devrait améliorer, c'est penser c'est vrai que ça aurait été injuste de faire monter Vettel sur le podium en même temps que les autres, parce que sur la course, il a pas mérité. Mais instaurer une cérémonie pour le sacre du champion sur le podium où il reçoit son trophée. Alors, on va dire, ouais, mais il y a le gala après. Mais en NASCAR, il y a le gala après.
Mais
quand même,
gala...
lors de la dernière course, il y a quand même la remise du trophée sur le podium. Voilà, il y a une remise spéciale, il y a une cérémonie spécifique. Donc, ça serait bien qu'ils instaurent ça à l'avenir. Ils ont essayé de faire des podiums super sympas cette année. C'est vrai que les podiums, voilà, je suis pas fan des drapeaux sur les podiums, mais ils ont vraiment fait un gros effort sur les podiums cette année pour les rendre plus attractifs. Ce serait peut-être temps qu'ils commencent à réfléchir à une procédure pour véritablement sacrer le champion.
Ce pauvre Kimi va devoir assister au gala FIA.
Bah, le gala. Je trouve ça pathétique.
Ah, ça m'a gonflé, ça aussi.
Moi, ça me gonfle, le gala. Et je pense que on se dirige vers comme ce que tu attends, vers ce que tu attends, Dino. C'est-à-dire, une cérémonie beaucoup plus festive. Bah, cette année, ils ont rien qu'en, enfin, je sais pas si c'est comme ça tous les ans. J'ai trouvé que, ils ont vraiment bien fêté le titre. Ils lui ont laissé de la marge avec elle, quand même, quoi. Mais, c'est dommage, parce que le gala, il est pas en direct, il est même pas retransmis. Personne n'achète les droits.
Non.
Voilà, du coup, c'est dommage de faire un gala juste pour se taper du foie gras et du champagne, quoi. Enfin, je trouve ça dommage.
Ça a un peu ce côté exclusif, quoi. Mais justement, j'en profite, tu as parlé de Raikkonen, hein, qui voulait pas aller au gala.
Oui.
Et là, nos amis de TF1 ont encore dit, ça c'est Raikkonen, il y a vraiment que lui. Mais non, Alonso, il a envoyé un SMS il y a deux ans, c'est l'année dernière à Weber, pour lui dire, attention, ton vol et compagnie. Donc, c'est pas le seul Kimi Raikkonen qui a pas envie d'aller au gala, quoi. Tous les pilotes n'ont pas envie d'aller au gala.
Mais c'est ça, mais en même temps, il faut les comprendre. Les mecs, ils sont sur la route toute l'année. C'est ok, ils gagnent des millions. Ok, c'est ma ligne de défense quand on me dit t'as vu leur salaire. Ok, ils gagnent des millions, mais ils vivent que pour ce sport, quoi. Ils s'entraînent tous les jours. Je dis pas au football ils s'entraînent pas, mais c'est quand même moi ça m'impressionne, quoi.
C'est Buemi qui a dit à Christophe Albon que l'an dernier il avait fait 172 voyages en avion.
Ouais, c'est. C'est dur de se poser après, clairement.
Non, puis sincèrement, à part le champion, t'en as rien à foutre. Et puis, du gala, t'as rien à aller chercher.
Puis de toute façon générale, les pilotes aiment pas ça. Ce qu'ils aiment, eux, c'est être dans la voiture. Tous les trucs à côté, s'ils pouvaient s'en passer, ça fait partie des extras. Franchement, s'ils pouvaient s'en passer, ils s'éclatent plus à faire la course des champions qui est une semaine avant, où là, ils s'éclatent, que d'aller au gala. Hein.
En plus, là, ça, ils vont s'éclater, c'est en Thaïlande.
Mais si on passe au premier du classement, il a marqué 2395 points. Moi et Gaëtan, on l'a mis troisième.
J'ai mis cinquième.
Tu l'as mis cinquième.
Je crois pas. Attends, si, peut-être.
Ah bah si.
Je vois que tu te trompes pas, oui. Vas-y.
Si.
C'est pas difficile. Il y en a qu'un qu'on n'a pas cité, c'est un espagnol.
C'est Fernando Alonso. Mais comme tu l'as dit, c'est une course particulière. C'est la dernière course de la saison.
Ouais.
On peut pas dire qu'il fasse une mauvaise course quand même.
Ah, c'est le cumul de tout.
Il fait pas une mauvaise course. Il fait pas non plus la course la plus brillante au point de mériter la première place.
Non,
il fait ce qu'il a à faire.
Premier, il est champion.
Mais voilà, il a fait le boulot, mais encore une fois, comme à Austin, il se retrouve dans une situation où il a pas non plus forcé son talent, il a bénéficié quand même de certaines circonstances pour se retrouver en position de pouvoir espérer quelque chose.
Moi, je les ai séparés comme ça, tu vois, Vettel et Alonso, parce que j'ai remué tout ce qu'il y avait cette année, et comment je les sépare dans le dernier top 10, c'est pour moi, c'est clairement Alonso, il a fait une bonne course, Ferrari a fait une bonne course, il a eu de la chance, il a eu ce petit hasard qui a fait que Hülkenberg pousse Hamilton et qui a relancé l'intérêt du Grand Prix dans les 20 ou 30 derniers tours. Mais Vettel, c'est que justement Alonso a eu de la chance et Vettel n'a pas eu de chance et a dû se battre quoi. Il a dû aller la chercher plus que lui. Tous ces problèmes, le fait qu'ils oublient un pneu pendant un pit stop aussi.
Mmh. Oui.
Mais moi, quand j'ai vu ce mec courir avec le pneu, ça m'a rappelé. Je sais pas si vous vous rappelez. Je crois que c'est en 2010 à Monaco quand ils avaient arrêté la course parce qu'il avait plus. Je crois, et où ils en ont profité pour Vettel était toujours premier pour refaire un départ. Il restait 10 tours.
C'était après le gros carton.
Voilà. Il n'avait pas plu. Il y avait un gros carton. Et ils en ont profité pour changer le museau, les pneus et tout.
Oui.
Ce qui avait fait que Vettel était obligé de gagner, quoi. C'était vraiment, encore une fois, ces derniers jours, on parlait sur VNF1 de comment que Red Bull utilisait aussi le règlement. Voilà, quoi. Le mec, et je me rappelle d'un mec, justement, qui courait tout seul avec le museau et qui n'en pouvait plus, qui était en train de taper un sprint. Et là, quand j'ai vu le mec avec le pneu, ça me fait repenser à ça. Ça fait sourire. Mais voilà quoi. Mais Vettel a été contre son sort. Voilà. Tu dis que tout était contre lui et il y a été. Alonso, tout était avec lui et malgré ça, il l'a pas eu. Tant pis.
Par contre, j'ai pas aimé ces déclarations après d'Alonso et de Ferrari dire qu'il avait fait que 18 courses sur 20, qu'il avait perdu le titre à Spa. C'est vrai, d'une certaine façon, il perd le championnat à Spa.
Mais il dit pas qu'il le perd à Spa. Hein. Moi, attends, je l'ai sous les yeux.
Il y a même des sites qui ont été jusqu'à citer Alonso, qui disait, j'ai perdu le titre à cause de Grosjean.
Oui, hein,
non. Alors, le communiqué Ferrari, il dit, ce n'est pas, ici, à Interlagos qu'on perd le titre, c'est à Suzuka ou à Spa.
Ouais, la phrase exacte, je l'ai sous les yeux, c'est, nous n'avons assurément pas perdu le titre aujourd'hui avec ce qu'il s'est passé à Spa ou Suzuka.
C'est déjà beaucoup plus pondéré, oui, comme phrase.
Ah non, voilà, ça c'est fanf1.com. Et justement, je me rappelle que hier il y avait déjà des commentaires qui disaient il a dit que c'est à cause de Grosjean et des Lotus et de Raikkonen et bien sûr ça a lancé une petite polémique et je suis pas rentré dedans parce que ça sert à rien quoi. Mais là lui-même c'est vraiment modéré. Ils ont pas perdu le titre aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Spa ou à Suzuka. Il peut pas occulter ça non plus,
surtout
quand faut être honnête, il perd le titre à cause de Grosjean.
Oui,
voilà. Non mais à un moment donné, faut être honnête, faut dire les choses clairement. Oui, il perd le titre à cause de Grosjean. Oui, il perd le titre à cause de ce qui s'est passé à Suzuka, où les torts sont partagés entre lui et Raikkonen. Faut juste être franc. Il perd le titre pour 3 points. Si on doit chercher où il a manqué ces 3 points, on peut dire que c'est la monoplace qui est ratée au départ. La monoplace est ratée au départ, mais il arrive quand même à se battre pour le titre, à finir vice-champion à 3 points du champion.
De la même façon, si le résultat avait été inversé, il y aurait plein de monde qui serait en train de dire que Vettel a perdu le championnat à cause des alternateurs Renault.
Voilà. Mais tu vois, dans cette phrase qu'il dit, il dit que avec ce qui s'est passé à Spa ou Suzuka, mais il dit pas qu'il y a eu que ça. Il occulte pas le fait que la voiture soit loupée.
Non, puis la chance fait partie de.
Mais c'est la vie, quoi. Voilà quoi. On lit la déclaration, il est pas. Il était déçu, mais il n'était pas écœuré. Enfin, c'est normal, mais qui ne serait pas déçu. Mais après, il sait.
Mais en plus, c'est des trucs qu'on dit à chaque fois quand c'est serré à la fin de saison. Enfin, on refera toujours l'histoire. Le fait est que à la fin, à l'arrivée, il est pas champion. Il est à 3 points derrière. S'il a perdu le titre, qu'il y a des raisons. Il y a des grosses raisons qui l'ont fait, mais que ça joue aussi sur ça peut aussi, les 3 points. Il lui manque au Canada quand ils font une erreur de stratégie. Là où on peut le critiquer, c'est dit la saison de Ferrari était parfaite. on n'a fait aucune erreur dans les stands, aucune erreur en stratégie et compagnie. Bon, bah, Austin, il y a eu une erreur dans les stands. Stratégie, il y a le Canada où vous avez fait une boulette. Voilà, donc il y a quand même eu des boulettes du côté de chez Ferrari. Ouais, beaucoup moins que chez leur rival, c'était une écurie fiable et compagnie, mais il y a eu des boulettes.
C'est ça.
Donc voilà, si on commence à chercher comme ça, oui, il y a Grosjean, mais il y a aussi plein d'autres trucs. Lui, il prend le plus important, et c'est aussi peut-être le plus injuste, et qu'il s'est retrouvé éliminé de course sur des incidents, dont un où il est co-responsable, un où tout le monde s'est accordé à l'époque à dire, mais tout le monde, à dire qu'il y était pour rien. Et bah oui, oui, il a perdu et le championnat sur ça, mais pas seulement sur ça.
Il peut pas être responsable, il est pas sur la ligne de l'impact, enfin, il est sur la trajectoire de l'impact, mais voilà. C'est un dommage collatéral, quoi.
Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'à l'époque, tout le monde s'accorde à dire qu'il est responsable de rien dans l'incident, qu'il est une victime collatérale, et aujourd'hui qu'il dit, bah oui, j'ai été victime d'un accident qui m'empêche d'être champion, parce que on aurait très bien pu penser, même si c'est impossible de refaire la course, qu'il aurait au moins marqué 3 points à ce moment-là. Mmh. Voilà, mais c'est encore une fois, c'est refaire l'histoire. On peut bien comprendre qu'Alonso, il cherche aussi à se dire, bon bah j'ai raté le titre pour des choses qui nous échappaient.
C'est ça. Oui.
C'est aussi un moyen aussi de lui de se dire, bon bah finalement j'ai fait une super saison. On peut être fier de ce qu'on a fait. Et si on a perdu le titre, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres. Et c'est ce que Vettel a dit la même chose derrière. Il a dit, on a essayé de nous mettre on nous a mis des bâtons dans les roues, sans désigner qui que ce soit, sans expliquer pourquoi. Voilà, il jette un truc comme ça pour dire, vous voyez, on a quand même été champion malgré tout ça, parce que c'est pour se valoriser, pour dire, vous voyez, le titre vraiment je le mérite, parce qu'au final on nous a retiré les échappements soufflés, on a eu des réclamations sur tout le temps contre notre voiture et compagnie, et au final on est champion quand même, donc voilà.
Et justement, dans toute la déclaration d'Alonso, il y a une ligne qui évoque ça, et tout le reste, soit il dit qu'il a donné le meilleur de lui-même, donc il regrette rien, et qu'il espère un meilleur futur, quoi. C'est normal, quoi. Enfin, je sais pas. Mais cette image, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette image du réalisateur qui nous montre Alonso en attendant Massa, je crois, qui a le regard fixe.
Le regard
fixe.
Un peu vide. Ouais.
Ah, j'ai trouvé touchant.
Elle est super.
C'est touchant. Et là, que Malbrand qui dit que oui, il se repasse toute la saison.
Sans doute.
Sans doute, oui. Ouais. Je pense que oui. Mais il peut pas faire mieux. Il peut pas.
Mais voilà, c'est pour ça que je voulais pas que Vettel gagne ça, parce que je voulais qu'il traverse ce moment-là par lequel est déjà passé Alonso, par lequel est déjà passé aussi Hamilton, qui ont perdu des titres, Hamilton, qui ont perdu des titres, qui ont vécu ce moment-là de frustration. Moi, je me rappelle l'image d'Alonso abattu en 2010 sur un escalier, la tête dans les bras, en se disant, mais comment c'est possible? Et là encore, il avait le regard à gare. Il y a besoin, je trouve que c'est très, très formateur et ça vous fait progresser énormément que de passer par ce moment-là, ça vous fait grandir. Et moi, je pense que Vettel, il a atteint un cap. Il avait déjà atteint un cap l'an dernier et que la défaite va lui faire franchir un nouveau cap. Et maintenant, j'attends l'année prochaine, je veux qu'il perde.
Et
voilà.
Comme tu dis, je pense que il va bien s'en, enfin, comment dire. Alonso, oui, il est déçu, mais il va bien s'en remettre parce que voilà, il sait pertinemment qu'il a fait sa meilleure saison.
Oui.
Du coup, il n'a rien à se reprocher. Donc,
de toute façon, Vettel ne peut pas gagner l'an prochain. On va tous péter un câble s'il gagne encore l'an prochain.
Je pense qu'ils ont quand même leur chance, hein. Ils gardent vraiment leur chance,
oui,
mais.
Bien sûr.
Ah bah oui, elle.
Oui, quand oui, tu vois bien la sûr. Saison,
oui.
Je pense, hein. Mais j'aimerais aussi qu'il perde, ouais. Comme tu as dit, j'aimerais aussi qu'il perde, pour voir comment
même si rien n'est gagné pour 2036, tout le monde dit, ouais, bon, c'est le même règlement et compagnie, on va avoir la même hiérarchie. Justement, comme on va avoir la même hiérarchie, les équipes vont quand même être obligées d'aller essayer de trouver des trucs pour faire la différence. Ouais. Donc, du coup, on va quand même avoir des voitures différentes. Des nouveautés, des solutions, des trucs extrêmes et compagnie. Chez Ferrari, on parle complètement d'une voiture refaite à zéro, avec ce qu'ils ont acquis de la 2012, mais quand même repartir d'une nouvelle base. Donc il n'y aura pas de prolongation sur ce qu'ils ont fait cette année. Et on peut par exemple s'attendre à la même chose du côté de Red Bull, parce que Red Bull, on se rappelle, je crois l'an dernier, on avait dit ouais.
L'avance s'est quand même grandement réduite depuis l'an dernier. Hein.
Oui.
Oui, non, mais l'an dernier, en 2011, quand ils présentent la RB7, tout le monde se dit que ça va être une évolution de la RB6.
Mais non.
Quand on regarde, non, c'est pas une évolution de la RB6. Il a lui-même dit, je suis reparti tout à zéro, on a tout reconçu. Donc, sincèrement, je pense que l'année prochaine, c'est pas dicté. Je pense vraiment que va y encore y avoir du suspense sur les équipes et en plus, il y aura en plus des équipes qui vont pouvoir progresser de derrière parce que forcément maintenant les marches sont quand même beaucoup moins grandes, qu'il y a quand même 2014 à préparer. Donc voilà. Mais mais je pense qu'on va quand même voir des voitures différentes, des nouveaux projets, des nouvelles choses qui vont sortir.
Mais en parlant de développement de voitures, une actualité que j'aurais bien aimé lire dans les prochaines semaines, je sais pas si elle va arriver, c'est combien ils ont mis dans les voitures dans le développement. Est-ce que ça sort ou c'est que des estimations ou est-ce qu'ils le disent?
On a su seulement, je crois, au mois de septembre. On a eu des bruits seulement au mois de septembre, des rumeurs.
Mais c'est
rumeurs,
c'est toujours que des
sur ce qu'avait dépensé Red Bull en 2011. Donc, en ce qui concerne l'argent, il n'y a pas de source.
Okay.
Il n'y a que des bruits de couloir, il n'y a que des sources officieuses et compagnie. C'est vrai que très souvent dans le répondeur, on nous pose des questions. Tiens, sur ça, est-ce que vous pouvez nous donner les sommes? Non, mais l'AF1, les contrats et compagnie, on n'a aucune idée de l'argent. On a des rumeurs, on a des suppositions, mais il n'y a aucune idée de l'argent réel.
Ok.
On va passer au classement. Allez, on va faire, puisque c'est la dernière de la saison, on va faire une remontée de classement, hein. Votre classement, celui que vous avez décidé tout au long de la saison. Le dernier classé au point, c'est Charles Pic, 2 points. Ex aequo avec Artie Kayan, 2 points. On sait, ça a fait scandale. Ricardo, 3. Senna, 22 points. Di Resta, 30. Vergne, 39. Kobayashi, 43. Maldonado, 44. Hülkenberg, 55. Rosberg, 64. Schumacher, il finit avec un 77. Comme quoi. Perez, 79. Grosjean, 115. Massa, 120. Weber, 142. Button, 177. Raikkonen, 205. Hamilton, 236. Vettel, 272. Tu sais bien écrire l'italien, Dino.
Ah bah ouais. Oh. Là, je peux vous dire que cette lettre-là va le partir. Hein.
Alonso est donc le vainqueur. Il est champion du SAV 2012 avec 293 points.
Donc non seulement voilà, il nous fait donc au SAV, nous avons Sébastien Vettel, triple champion du SAV, et Fernando Alonso, champion une fois du SAV.
C'est bien, il a accru, il était quand même en tête depuis Monaco. Ouais. Il n'a jamais quitté la tête depuis Monaco. Chez les équipes.
Ah, quand même à noter que sur FanF1, il y a le classement de la régularité,
oui,
et qu'au classement de la régularité, il y a Vettel, Alonso, Raikkonen qui sont ex-aequo, je crois que c'est 381 ou 391 points.
381, il me semble.
Voilà, 381 points.
Caterham, 0 points. HRT, 2. Marussia, 2. Toro Rosso, 42. Williams, 69. Force India, 85. Sauber, 122. Mercedes, 141. Lotus, 318. McLaren, 403. Ferrari 413.
Tu vois, ils sont en lien avec Peugeot, McLaren.
Donc Ferrari 413 et Red Bull 424. Oh, c'est quand même beaucoup plus serré que dans le, ouais, le vrai classement.
On leur enverra quand même un
un post-it,
un diplôme, mais on leur enverra son cadre.
Oh, pour oui, le coup.
Là. L'an dernier, on avait envoyé avec des cadres et tout, et là, sincèrement, Red Bull, ils ont pas répondu l'an dernier, donc on a pas envie de se faire chier. Par contre, Ferrari, on sait qu'ils répondent, donc
ils répondent,
là, on va essayer de mettre les choses un peu dans les grands.
Bah, même un petit mot, on demande pas non plus des trucs, mais tu vois, juste. Non, mais...
Et même cette année, ce qu'on fera, c'est qu'on enverra une lettre à toutes les équipes avec leur position au championnat.
Ça, c'est cool.
Pour comme ça, en même temps, ça fait connaître un peu le SAV auprès des équipes.
Et donc, au niveau de l'autre classement, eh bien, à part Schumacher, on a quand même 5 champions du monde aux 5 premières places. Vettel 281 devant Alonso 278, Raikkonen 207, et oui, tu iras en Turquie, Lewis 190 devant Button 188. Chez les constructeurs, donc ça c'était déjà réglé, Red Bull 460 devant Ferrari 400, McLaren 378, donc Ferrari aussi a gardé sa deuxième place, hein. On sait que c'est important pour les sous.
C'est ma fierté de la saison.
Je pense, oui. Et pareil.
Parce que sincèrement, s'il y a bien un résultat, ils sont déçus de pas être, ouais, champion pilote, mais s'il y a bien un résultat dans lequel ils peuvent être fiers, c'est d'être la deuxième meilleure équipe. Ils n'avaient pas fait aussi bien depuis 2008, où ils avaient été champion constructeur. Oui, c'est ça, oui. Et franchement, ils peuvent être très très fiers de ce résultat, parce que c'était pas, personne leur promettait la deuxième place en début de saison.
Ah, mais oui, mais c'était, oui. Après,
on les disait même cinquième, hein, du championnat.
Ouais, et encore, ouais, même après avec Massa, toutes les déboires de Massa, on les enterrait bien vite, quoi. Même eux s'enterraient bien vite.
Voilà. Et sinon, pour le reste du classement, hein, notamment pour les numéros l'an prochain, Lotus 303, Mercedes 142, Sauber 126, Force India 109, Williams 76, Toro Rosso 26, et dixième donc, Caterham devant Marussia et HRT. On va passer au fait marquant. Donc la semaine dernière, on vous a demandé quel était le fait marquant du Grand Prix des États-Unis. Vous avez été 76 à voter. Merci d'avoir voté. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10 cette semaine. Est arrivé troisième, 15 votes, un très bon Massa malgré les embûches. Ça vous a pas inspiré? 18 votes, un Grand Prix à guichet fermé pour le retour aux États-Unis. Mais ce qui vous a vraiment plu, 43 votes, 56%, Hamilton nous donne du plaisir et du suspense.
Alors, messieurs fixes ont juste une règle, on est bien d'accord, c'est le fait marquant de la course.
De la course, fait marquant de
d'accord,
la course.
D'accord, on donnera pas genre, on donnera les Vettel champion.
On donnera, à la limite, on donnera les résultats la semaine prochaine, rapidement.
Oui.
Hein, voilà, comme ça, ça vous laisse une semaine.
Il y a beaucoup de, il y aura beaucoup de sondages intéressants à utiliser la semaine prochaine. On vous rappelle qu'il y a toujours le sondage du mag, hein, qui est en cours.
Alors moi, je ne peux pas terminer la saison sans faire un truc avec Kimi, quand même, hein, c'est normal.
Finalement, ça fait... Ça fait toute l'émission que je prépare une phrase avec Kimi. Mais vas-y, prends.
Je vais dire Kimi 2 points, mais il vous jure que c'était ouvert en 2001.
Ouvert, c'était ouvert.
C'était ouvert, oui.
Si on retire la liaison, c'était ouvert.
Ah, moi, j'aurais dit Kimi nous montre ses 2 ans d'expérience en rallye pour le petit hors-piste.
Moi, c'est pas tant le hors-piste, c'est plutôt la déviation, c'est pour ça.
la déviation m'a fait sourire, mais c'est surtout le « Oh, et puis merde, allez, et le truc ».
Et tu sais, sincèrement, moi, je serais Google, je ferais un coup de pub avec Lotus en leur disant « L'année prochaine, je vous sponsorise », et on se sert des images, tu vois, pour dire, voilà. Vous voyez, s'il avait été sponsorisé par Google à l'époque, il se serait pas trompé de chemin.
Tu sais que, notamment, tu sais, le compte Twitter F1 Humour, si vous avez Twitter, vous aimez la F1, abonnez-vous à F1 Humour, c'est en anglais, mais il y a des trucs super cons qui... très drôle, et il y a beaucoup de trucs en plus sur Kimi, et parmi les trucs qu'ils ont sortis, ils ont fait un truc, tu sais, avec la fameuse application iOS Map, tu sais, truc qui marchait, je sais pas s'ils ont résolu les problèmes, mais tu sais, qui marchait très très mal, qui indiquait notamment Berlin en Antarctique.
Oui.
Et donc, ils ont mis un truc comme ça dans genre, dirigé par Apple Maps, sous-entendu, c'est pour ça qu'il a pris un autre chemin.
Mais il y a aussi des photos qui le montrent au volant de la Lotus avec une carte entre les mains. Alors, un fait marquant.
Prends ton temps, vas-y, je réfléchis, moi.
Il y en a aussi une où ils ont rajouté un panneau, et il y a tout droit ice cream, et sur la droite, toilette.
Il y a eu 8 vainqueurs différents cette saison. Hein.
Oui.
Hülkenberg, virgule... si près d'être le 9e vainqueur. C'est nul comme formulation, mais j'ai rien de plus sexy en tête.
T'as fait mieux, t'as vraiment fait mieux.
Ah ouais.
En tant qu'auditeur, quand j'entends Dino faire Hülkenberg, virgule, là tu t'attends à un truc, t'as le suspense, tu fais, pourquoi il a mis une virgule?
Je me réserve pour 2013, messieurs.
Ah oui.
Et donc toi, Gaëtan?
Ouais, je vais faire le j'ai envie d'y penser, mais bon, même si je n'ai pas apprécié Schumacher, virgule, Vettel, virgule, la passation de pouvoir, 3 petits points.
Bravo. Donc, quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix du Brésil? Vous aurez le choix entre Hülkenberg, si près d'être le 9e vainqueur, Kimi, mais il vous jure que c'était ouvert en 2001, ou bien Schumacher, Vettel, la passation de pouvoir. Donc, c'est sur l'article du SAV de la F1, présent sur Fan F1. Normalement, si vous nous écoutez, vous avez même déjà voté. Dino, c'est l'heure du concours.
Oui, le concours top à position.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top à position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Un concours qui vaut de l'or, même si c'est pas de l'or, mais qui vaut de l'or quand même.
Qui vaut du tissu et du carton.
Oui.
Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, Steve avait remporté le concours en vous permettant donc de répondre à cette question qui était la suivante. En dehors de cette année, combien de titres pilotes ont été décrochés lors d'un Grand Prix du Brésil? C'était une question particulière parce que, pour la première fois, nous vous offrons un vrai lot. Je ne tiens pas compte du lot spécial Salon de l'Auto, mais un vrai lot, c'est-à-dire la casquette du champion du monde. Bon. Les fans d'Alonso qui ont répondu vont peut-être être déçus. Ce sera une casquette aux couleurs de Red Bull.
C'est sa vraie casquette. Il l'a déjà portée.
Une vraie casquette. Mais non.
Quand même pas.
C'est pas la sienne.
Non, ça c'est un cadeau que vous pouvez me faire. et donc messieurs, je vous demande tout simplement quelle est la réponse. On avait demandé quand même d'être assez détaillé dans la réponse pour pouvoir quand même, parce qu'il y a un cadeau à la fin.
Donc c'est tous les titres qui se sont joués. Au Brésil.
Au Brésil. D'accord. Donc ça, 2 têtes, messieurs.
C'est 10?
Moi aussi.
Oh non, c'est moins.
Moins de 10?
6?
5.
Non, c'est 5.
5.
J'aurais dû
jouer. C'est 5 consécutifs.
J'aurais dû jouer.
C'est 5 consécutifs. Alors maintenant, les années?
2012.
Ah non, mais en dehors de 2012.
2006?
Alors 2006, oui.
2007.
Il y avait deux prétendants au titre, c'était Alonso et Michael Schumacher. 2007, oui. Trois prétendants au titre, Raikkonen, Hamilton et Alonso. Celui-là, on s'en rappelle. Raikkonen champion. Voilà, je vous ai dit, c'est 5 consécutifs, donc vous m'avez dit 2006-2007. Alors après, 2006-2007, non, c'est pas ça.
Bah 5 consécutifs, ça peut être aussi avant, si 2006 c'est le
ah, ça 3e. Peut être aussi avant, oui.
Tu vois. Mais là, vu que ça a l'air d'être 2008 aussi.
2005, Raikkonen, Alonso.
Alonso, Raikkonen, c'était pas la fin de saison, hein. C'était 2-3 Grands Prix avant la fin.
Ah oui, c'est
la...
ça.
2008, non?
2008, oui, Hamilton et Massa. Voilà, ça, celui-là, on s'en rappelle.
Non, celui-là, celui-là j'avais les boules.
C'est celui-là.
Puis 2004?
2004, non.
Bon, 2009, alors.
2009.
C'était Button qui était alors en lice, encore en lice avec Barrichello Vettel, mais on, là, encore, on était à quelques Grands Prix de la fin de saison. Et donc, à cette question, pour une casquette, vous avez été deux à répondre. Et bravo à vous. Vous avez été courageux de répondre. Et malheureusement, il n'y a qu'une bonne réponse.
Ah bah oui.
C'est même pas dans le détail, c'est juste que dans le chiffre. Il n'y a qu'une bonne réponse. Dans le détail aussi, c'est bon, mais dans le chiffre, il n'y a qu'une bonne réponse. Et nous allons donc féliciter pour sa victoire et qui va donc gagner une casquette de Sébastien Vettel. On espère pour lui qu'il aime Sébastien Vettel. Voilà. C'est Alan.
Bravo,
qui n'avait encore, je crois, jamais gagné cette année, qui est un participant tout récent. Donc bravo Alan, tu as gagné donc une casquette de Sébastien Vettel. Pour la recevoir, tu nous envoies tes coordonnées à contact@savf1.fr. Non, à concours@savf1.fr.
Tu peux lui répondre puisque tu as son adresse mail.
Ça va pas.
Ah,
moi
ça...
je préfère que les gens viennent te demander.
Comme ça, t'es sûr que c'est lui.
C'est lui. T'imagines?
Oui, non mais j'ai son adresse mail, on va pouvoir comparer. Donc voilà, donc tu nous envoies ton adresse et on te fera parvenir cette casquette qui nous est gracieusement offerte. Donc voilà, on remercie qui se reconnaîtra la personne qui se reconnaîtra et qui nous offre cette casquette et qui vous l'offre par conséquent. Et tu remportes également un petit ticket quand même pour le tirage au sort que nous ferons la semaine prochaine.
Oui.
Voilà. Puisque malgré tout, il y a une question. Vous avez proposé comme thème pour cette dernière question, le thème suivant, c'était les triples champions du monde, puisque on allait titrer quoi qu'il arrive un triple champion du monde. Mm. Et la question que nous propose Alan et à laquelle vous allez pouvoir répondre avant mardi prochain est la suivante. Qui fut le troisième pilote à devenir triple champion du monde de Formule 1? Attention, il y a un piège.
Attends,
qui fut le troisième pilote à devenir triple champion de Formule 1?
Le troisième pilote est triple champion de Formule 1.
Voilà. C'est-à-dire que faut aussi inclure les mecs qui ont été plus que triple champion du monde.
Ah, c'est ça ton piège.
Voilà. Non, mais oui. Non, parce que je m'attends à des réponses, voire Donc là, on vous montre pas de détails, tout simplement. C'est pour gagner le dernier ticket de la saison. Voilà. Il y a même pas de questions à envoyer. Voilà, vous faites tout simple. Vous répondez à la question suivante. Donc, qui fut le troisième pilote à devenir triple champion du monde de Formule 1? Voilà. Vous nous envoyez votre réponse à concours@savf1.fr. Vous avez jusqu'à mardi 19h et dans l'émission, donc dans le mag qui sera le dernier mag de la saison, pour la semaine prochaine, vous trouverez une petite vidéo du tirage au sort que nous aurons fait avec Shinji.
Oui. Avec amour.
Voilà. Avec amour comme toujours, et où on sera bien à l'intérieur
cette année intérieur.
Et donc où vous aurez à la fois le tirage au sort pour cette dernière question, voilà. Donc là vraiment c'est la chance qui va vous départager, et donc le tirage au sort final pour le lot qu'il faut qu'on trouve d'ailleurs chez DC.
Ah oui, c'est vrai.
Pour le grand lot final. Non, voilà, pour le grand lot final, donc ça c'est mercredi prochain, donc vous avez jusqu'à mardi, on sera le mardi 3 ou 4 décembre.
Mmh. On sera mardi 4 décembre.
Oh, ça, on est déjà le 4 décembre. Oh, oh la vache.
Elle finit tard la saison.
Oh là là.
Mais c'est ça qui est bien, parce que on a des grands prix pendant plus longtemps dans l'année. Et moi, là, maintenant, je suis super triste. Je sais pas ce que je vais faire, moi. J'en ai marre.
Tu vas voter pour les SAV d'or.
Ça reprend quand?
Mais tu vois, c'est quand même une période triste, parce que nous, on va s'embêter. Mais imagine, Dino, les gens qui aiment pas la F1, qui s'embêtaient déjà. Quand il y avait de la F1, là ils vont encore plus s'embêter parce qu'il n'y a pas de F1.
Ouais, c'est vrai.
Bien, si vous n'aimez pas la F1, et si peut-être vous allez vous embêter, eh bien devinez quoi, Gaëtan est là.
Je dirais que en premier lieu, faut se soigner parce que avec l'hiver, faut avoir des douleurs à l'épaule.
Ou à la jambe.
Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous pouvez honorer votre femme. Voilà. Si on n'a pas de copine, allez en draguer une. Je pense pas que ça ait déjà été dit.
C'est bien, ça correspond bien au point 2.
Voilà, c'est ça. Si vous aimez pas la F1, du coup, ben, profitez de tout ce temps pour inventer un sport meilleur que la F1. Voilà.
Non, tu sais que c'est excellent, ça.
Voilà, ça, c'est un bon petit pic. Changer de coupe de cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. J'avais vraiment plus d'idées.
C'est peut-être en pensant à Charles Pic.
Ça c'est bas. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Apprendre à faire du saucisson, parce qu'avec les fêtes de fin d'année et tout, si vous commencez à faire votre saucisson maintenant, je pense qu'il aura le temps de sécher pour Noël, et c'est toujours plus classe de sortir son saucisson pour les fêtes de fin d'année. Putain de... Et en septième point, c'est faire sa propre bière. Mais je crois que ça a déjà été dit. Je crois que quelqu'un l'avait déjà dit, mais je suis pas sûr. Mais voilà quoi. Faire sa propre bière, voilà, se lancer dans une passion, en gros se lancer dans une autre passion qui est aussi peu connue où il y a si peu d'adhérents.
On peut faire sa propre bière de Noël par exemple.
Oh, faire sa propre bière de Noël, flambée alors, voilà. Un petit défi, une bière de Noël flambée.
Ça existe. La bière flambée.
Ça existe.
Est-ce que ça flambe seulement la bière?
Bah c'est de l'alcool quand même.
Oui, mais c'est très peu d'alcool.
Si je me trompe pas,
moi je sais pas quoi. Moi sincèrement en cuisine quand je flambe, c'est au calva, au cognac.
Je suis d'accord, tu vas pas flamber un truc avec de la tourtelle, hein, on est d'accord. Mais techniquement, il y a de l'alcool. Donc. Ou alors tu flambes tes bananes à la dynamite. C'est très efficace. Oui.
Attends, mais tu sais, c'est une question existentielle, ça.
Alors, si tu veux, je vais me faire la petite recherche. Pour faire une bière flambée, il faut mélanger justement une bière avec un alcool fort.
Ah, bah tu vois, donc c'est que la bière, ça flambe pas.
Non, la bière ne flambe pas, ça c'est clair, c'était sûr et certain. Mais, et justement, voilà. Faites votre bière et faites-la flamber avec un alcool fort. Je vous laisse le choix.
Mais si on arrive à la fin de cette émission, merci Gaëtan de nous avoir accompagnés pour cette dernière émission post-course de la saison.
Merci à vous.
Hein, on aura réussi nos 20 invités différents. Donc merci. Oui. Profitons-en pour
remercier. Il y aura eu du suspense jusque sur la
fin. Bon, merci. Profitons-en pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés au cours de la saison et vous tous qui nous écoutez. Hein. Même s'il y aura encore au moins une émission. Allez, comme d'habitude, on vous rappelle que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Podcast France, c'est sur... C'est sur quel site, Dino, hein, c'est sûr?
FanF1.com, bien sûr.
Bien! Je change.
Et c'est là.
Le Ritz des podcasts.
Le Ritz des podcasts.
Ou la famille.
On en profite quand même pour vous dire que la semaine prochaine, donc comme c'est le mag, vous pouvez toujours, on fera une émission, un mag un peu spécial où on reviendra bien évidemment sur la saison et compagnie, même sans forcément trop s'engager sur ce qu'on va dire dans les SAV d'or. Mais bon, voilà, si vous avez des petites remarques sur la saison, des réflexions sur la saison, un petit bilan personnel de la saison et compagnie, on les fera relayer et puis des débats à ouvrir. Voilà, des questions à poser, n'hésitez pas. On verra ce qu'on peut traiter.
Là, via le répondeur, vous n'hésitez pas, hein, l'adresse.
Répondeur@savf1.fr.
Excellent. Allez, comme d'habitude, pour la dernière fois cette saison, on va se quitter sur ces quelques mots de je sais pas quoi, à vrai dire.
Mais je tiens d'abord à dire, je dis que je m'étais engagé plutôt cette saison, soit à mettre des paroles sur l'hymne espagnol, et croyez-moi bien que j'eusse préféré.
Mais...
mais finalement, je vais devoir vous chanter l'hymne allemand. Sauf que, bon, j'avais quand même un petit peu d'espoir que ce soit l'hymne espagnol, donc j'ai pas forcément préparé l'hymne allemand. Et comme on a avancé l'enregistrement de l'émission, je n'ai pas préparé l'hymne allemand. Vous vous doutez bien.
Ce qui signifie que vous avez au moins une bonne raison d'écouter le SAV la semaine prochaine.
Je sais pas si c'est vraiment vous encourager à écouter l'émission. ça va être très dur, mais bon, voilà. Je me suis engagé, je respecterai ma parole, mais là vraiment les conditions étaient pas réunies pour que je le fasse. Et donc oui, Shinji, j'ai préparé un proverbe. Mon dernier proverbe de l'année. Un proverbe vraiment dans le contexte de ce Grand Prix du Brésil.
Brésil, calo.
De ce Grand Prix du Brésil. Parce que c'est un proverbe d'origine malaise. Et là, vous dites, oui, il n'y a aucun rapport, mais tout à fait.
Il y a aucun fait des malaises hier.
Et donc, le proverbe est le suivant. Et ce sera le mot de la fin de cette émission, puisque cette émission se termine, puisque nous arrivons au but.
Mais abrège.
Et donc, on vous laisse sur ce dernier Grand Prix de la saison 2012 avec ce proverbe. Le temps chaud d'une année est effacé par la pluie d'un seul jour.